Bien, bonsoir. Donc pour les nouveaux, je leur apprends, puisque les autres le savent déjà. Je demande un seul luxe, c'est qu'on se taise. Voilà. Bon, c'est un peu vieux jeu, mais c'est comme ça. Parce que si vous parlez même pour dire passe-moi le sel, ça m'enlève 5% de mon énergie. Bon, oui, c'est un peu maniaque, mais c'est bon. Alors, bon, j'ai dit à plusieurs d'entre vous, il y a de la place ici, hein. Prenez un petit papier, mettez-vous là. J'ai dit à plusieurs d'entre vous que ce café caté, par rapport au thème « Le catholicisme est-il crédible ?», c'est le point d'orgue. Hein. Enfin, les autres sont des confirmations, peut-être plus faciles parce que plus spectaculaires, mais celui-là est le plus important point de vue démonstratif. Dans l'avant-dernier café caté, on a montré que le Christ avait fondé une église hiérarchique, visible et hiérarchique. Premier point. Donc ça, très important. Ça permet déjà de baliser un peu le champ des églises ou des groupes qui peuvent se présenter comme étant la vraie église du Christ. Si je trouve une église qui n'est pas comporte pas de structure visible et d'hiérarchie, ben elle ne peut pas prétendre refléter la volonté du Christ. Ensuite, dans le café caté de février, on a montré que... donc voilà de quoi faire durer un peu. On a montré que... dans cette église visible qu'il a fondée, le Christ a promis le primat, c'est-à-dire une véritable capacité de réunion et de juridiction, en termes un peu modernes, on appelle ça la juridiction, sur toute l'église, à Pierre personnellement, et ensuite à ses successeurs. Alors c'était une démonstration importante à partir des textes même de l'évangile, saint Matthieu, saint Jean et saint Luc, qui est tout à fait, à mon avis, convaincante. Et la finale, c'était que ce que le Christ a fait pour Pierre continue pour ses successeurs, parce que par nature, l'Église est perpétuelle, la hiérarchie est perpétuelle et le primat est perpétuel. Donc on suppose tout ça plus ou moins acquis. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et vous pourrez aller voir le résumé que je pourrais vous envoyer si vous voulez, ou étudier les questions, mais on progresse. Hein. Vous voyez, l'apologétique, c'est la partie de la théologie où la raison fonctionne le plus. C'est-à-dire qu'on s'appuie au maximum sur des choses qui sont accessibles à même des gens qui n'auraient pas la foi. Bon. Donc maintenant, troisième point, où se trouve la vraie Église du Christ? Ben, vous voyez, par prescription, si j'ose dire, c'est un mot qui revient sous la plume de Tertullien, mais aussi d'auteurs plus modernes comme Soloviev, un russe, que j'ai cité la dernière fois. Eh bien, elle se trouvera nécessairement dans le groupe chrétien qui aura une hiérarchie visible et qui aura parmi ce groupe un type qui prétend qu'il est le primat et qu'il est reconnu comme tel. Oui. Alors maintenant, on va vérifier si c'est le cas de l'Église romaine. Vous voyez, la démonstration, enfin le chemin dans la raison est assez logique. Hein. Donc il y a deux points. Alors j'ai travaillé comme un malade pour préparer ce café caté, mais je ne vous ai pas tout mis. Hein, mais j'ai un texte un peu plus développé que ce que vous avez. Enfin, j'ai voulu vous donner quand même quelques références. Donc, premier point, il y a une succession apostolique. Ça, c'est une notion tout à fait capitale. Et deuxième point, le pontife romain, l'évêque de Rome, est le successeur de Pierre. Donc, la conclusion, c'est que la vraie Église du Christ, si elle existe, se trouve dans l'Église romaine. Oui. Alors, en apologétique, on tâche vraiment de ne pas tricher, vous voyez. Donc, j'ai dit si elle existe, parce que... vous pouvez vous mettre là ou... Non, vous n'êtes pas bien là. Ben, attendez, la deuxième, aussi, il y a deux places. Là. Alors, prenez un petit résumé au passage chez les dames qui sont à l'entrée. Là. Il n'y en a plus ? C'est bon, c'est bon. Bon. Non, là, vous pouvez en se passer un peu. Voilà. Donc, j'ai dit, la vraie Église du Christ, si elle existe, parce que ça suppose le café caté antérieur sur la crédibilité du Christ. Est-ce que le Christ est l'envoyé de Dieu? On a montré que la raison arrive à dire oui. Et donc, s'il a fondé quelque chose, ce quelque chose existe toujours. Voilà, il y a quand même un petit résumé. Bon, alors, premier point, la succession apostolique. C'est un point tout à fait capital qui a rebondi dans les 50 dernières années avec le dit dialogue interreligieux, ou plutôt œcuménique. Est-ce qu'il y a une succession apostolique? Eh bien, oui. Pour une raison très simple, qui est historique, c'est que si on regarde les premières communautés chrétiennes, on arrive à l'adage que j'ai marqué là, mais qui est plus complexe que ça, pas d'évangile sans église et pas d'église sans évangile. On constate que les premières communautés chrétiennes sont caractérisées par l'apostolicité. c'est-à-dire la conscience et la réalité, on va le voir, d'être fondée et de dériver des apôtres qui ont connu le Christ. Les apôtres, on l'avait précisé la dernière fois, ce sont les personnes de l'entourage du Christ, ou que le Christ a été cherché comme saint Paul, qui peuvent se prévaloir d'une mission directe du Christ pour évangéliser le monde. Donc, ces communautés, les historiens étudiant les communautés du 1er et 2e siècle, constatent que ces communautés sont apostoliques en ce sens qu'elles ont conscience de se rattacher à Jésus et aux apôtres. Et là, il y a un point très très important qui fait justement la grande séparation entre, disons, les communautés ecclésiales, les communautés ecclésiales qui se rattachent à la Réforme, d'une façon ou d'une autre, et puis les orthodoxes et les catholiques. C'est la succession apostolique. C'est-à-dire que nous autres, catholiques et orthodoxes, nous disons, l'œuvre des apôtres, ce n'est pas seulement la prédication de l'Évangile, mais c'est aussi une structure, une institution qu'ils ont fondée, qu'ils ont mis en route. Ça, c'est capital. Parce que c'est là, je crois, ce qui permet de nous éclairer pour trouver le... Ça va bien ? Donc, ce qui permet de nous éclairer pour trouver le chemin, si le Christ est Dieu, ce qu'on a essayé de montrer que la raison arrive au bord de cette affirmation, s'il a fondé une église, on a montré ça dans les différents cafés cathés, où est-elle ? Oui. Eh bien, on va voir qu'elle n'est sûrement pas du côté des communautés ecclésiales protestantes. Je ne veux pas attaquer personnellement des protestants, s'il y en a parmi vous. Il y en a parmi vous, ceux qui sont passés par là, par les évangéliques ou par d'autres. Il y a énormément de valeurs tout à fait respectables. Mais ce n'est pas la question des personnes qui est en jeu, c'est la vérité des doctrines et des institutions. Bon, on va voir que l'existence de la succession apostolique... Est-ce que vous avez encore des places par là ? Non ? Bon. Est-ce une chaise ? Non. Hein. Mademoiselle, venez, il y a une chaise là-bas. L'existence de la succession apostolique permet déjà de faire un peu le tri. Bon. Alors, en effet, la tradition apostolique n'est pas simplement présente dans les écrits du Nouveau Testament, donc les quatre évangiles, les épîtres de saint Paul, les épîtres catholiques de saint Jacques, saint Jean, saint Pierre et l'épître aux Hébreux et les actes des apôtres. Elle est là, c'est vrai. Mais elle n'est pas uniquement là. Elle est aussi dans des actions. Vous voyez, ça, c'est extrêmement important. Si vous avez retenu que ça ce soir, c'est déjà bien. Voilà. Pour discerner où est la doctrine catholique, qu'est-ce qu'ont fait les premiers pères, ce qu'on appelle les pères apostoliques, dont un que je citerai beaucoup, qui s'appelle Saint-Irénée, qui est un oriental, qui est passé par Rome et qui est venu évêque de Lyon. Donc, archevêque de Lyon, ce qui enracine vraiment une des plus anciennes églises des Gaules dans la tradition apostolique, parce qu'il a connu Polycarpe, qui lui-même a connu Saint-Jean. Bon, Saint-Irénée dit, il y avait beaucoup d'hérétiques à son époque, donc vous voyez, il y a une répartition à peu près isotrope, enfin pour les scientifiques, des hérétiques dans l'histoire. Enfin, vaguement isotrope. Il y a des pics aussi. Il y avait des pics au moment de Saint-Irénée, les gnostiques. Et donc, pour discerner, est-ce que c'est les gnostiques qui ont raison ou est-ce que c'est les communautés dites catholiques, Saint-Irénée disait, il faut, pour trouver la règle de la vérité, c'est un terme qu'il emploie lui-même, dans un texte très important qui s'appelle « Contre les hérésies », qui est reconnu par tous les catholiques et tous les orthodoxes. Hein. Il faut recourir à la tradition des apôtres. C'est-à-dire qu'il faut aller voir si les types qui nous racontent un truc peuvent se réclamer d'une église qui a été fondée par les apôtres et qui, de main en main, par la doctrine, par les bouquins, par les textes, par la parole et par la façon d'être et d'agir, a transmis ce qu'ont fait les apôtres. Oui. C'est extrêmement important. Il n'y a pas simplement des textes, parce que l'Église était antérieure à la rédaction des évangiles et des épîtres de saint Paul, même des épîtres de saint Paul, qui sont pourtant, le premier épître de saint Paul, c'est 51. L'Église existait dès la Pentecôte. Et l'Église a eu un certain nombre de façons de faire, célébrer la Sainte Cène, se réunir, prier, faire l'aumône, etc. Et puis avoir des anciens qui président, qui sont des actions. Et ces actions sont fondatrices. Et donc Saint-Irénée dit, pour savoir où est la règle de la vérité, il faut se reporter à la tradition des apôtres. Alors voilà ce qu'il dit, lui, par exemple, moi j'ai beaucoup de textes, je ne sais pas si je vais vous les lire, mais où je vais vous donner la substance. Lui, il parle de Polycarpe de Smyrne, parce que c'était son coin, son pays. Non seulement il fut disciple des apôtres, il vécut avec beaucoup de gens qui avaient vu le Seigneur, c'est important aussi le chevauchement des générations. Quand on regarde un peu un tableau, par exemple, des premiers évêques de Rome, on s'aperçoit que c'est l'abbé Roland qui a fait un la chaîne des témoignages des apôtres jusqu'à Irénée. Vous voyez, vous avez un tableau de 60 à la date où saint Irénée écrit, qui est environ 177. Et vous apercevez que pratiquement entre Irénée et ce qu'il dit, il y a un homme de transmission, vous voyez. Un homme qui lui-même est vérifié par une nuée de témoins autour de lui, qui soit sont favorables, donc vérifient qu'il a bien dit ce qu'il fallait, soit sont ennemis et peuvent le contredire par rapport aux racines, vous voyez. Donc ça, c'est très très important. Parce que parfois, quand on étudie ces périodes-là, on dit c'est tellement loin, ces gars-là et tout. Non, c'est pas si loin que ça, quoi. Il y a une génération, quoi, comme entre vous et la guerre de 14. Bon, il y a, enfin, entre moi et la guerre de 14, il y a, et voilà, et même, bon, moi, c'est direct. J'ai vu des gens qui l'ont fait, quoi. Hein. Vous voyez, qu'est-ce qu'on est vieux. Mais bon, ça passe vite, hein. On a des traditions de certains mouvements dans l'ouest de la France. Moi, je les ai eu transmis par une personne qui avait vu des gens qui avaient vécu ça tout petit. Donc, vous voyez, ça va très vite. Et on ne peut pas raconter n'importe quoi. En mai 68, il y a quelques trucs qui ont volé par ici, quoi. Alors, dans quelle direction, sous quel angle, combien de types qui ont été amochés, si les CRS ont tapé les premiers, ça, on peut peut-être en discuter, quoi qu'il y a des photos. Mais enfin, en gros, tout le monde dit, c'est passé quelque chose, quoi. Ben, l'évangile, c'est pareil. Même si vous pinaillez sur les virgules, sur les versions, il s'est quand même passé quelque chose. Hein. Voilà. Donc, Saint Irénée a vu Polycarpe, disciple des apôtres. Il a été établi par les apôtres pour l'Asie. L'Asie, c'est une partie de la Turquie actuelle, comme évêque dans l'église de Smyrne. Donc, c'est une église apostolique. Nous l'avons vu nous-mêmes dans notre prime jeunesse, parce que, bon, Polycarpe avait vécu très vieux, et coup de bol, Saint Jean aussi. Donc, Irénée avait de la bouche de Polycarpe des trucs que Saint Jean avait dit. Moi, je trouve ça assez émouvant. Peut-être que vous vous en foutez à l'heure qu'il est, hein, parce que vous êtes un peu fatigué après une journée dingue, mais moi, je trouve que c'est bien. Bon. Alors, donc, ce qui permet de vérifier, vous voyez, la clé de tout ça, c'est que les hommes permettent de vérifier la doctrine. Parce que dans le topo d'avant, on avait dit, il y a une fondation d'une église visible avec un magistère. C'est une fonction d'enseignement garantie par le Christ. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, et vous remarquerez que chaque fois qu'on parle de succession apostolique, on dit ça permet de vérifier si la doctrine est apostolique. D'ailleurs, il y a un texte que je n'ai pas mis chez vous, mais que j'ai dans mon gros papier à moi, de Tertullien. Alors, Tertullien est un type un peu folklore, mais il a eu une période catholique très intéressante. Hein. Après, il a versé dans des choses drôles. Enfin, pas drôles vraiment, mais un peu délirantes. Mais enfin, c'était un grand génie. Hein. Et il a écrit un truc qui s'appelle « La prescription des hérétiques ». C'est-à-dire la façon de se disputer avec eux, quoi. Il leur a dit, bon, s'il y a des gens qui se prétendent avoir leur doctrine depuis les apôtres, et se rattacher à l'âge apostolique, qu'ils montrent l'origine de leurs églises, qu'ils déploient la liste de leurs évêques. Ça, c'est très important, ce qu'on appelle les fastes épiscopaux, à savoir la liste des évêques. Et vous pouvez prouver que vous descendez de Saint-Jean par Saint-Polycarpe ou de Saint-Pierre par Saint-Lay, Clin, Clément, et puis les premiers qui sont nommés au canon romain. Mais il y en a beaucoup comme ça. On a une douzaine ou une vingtaine d'églises. Je ne sais pas si on a les fastes apostoliques d'Alexandrie, qui est un peu à l'ordre du jour depuis Saint-Marc. Mais si quelqu'un veut dire qu'il a une doctrine apostolique, qui monte la liste des évêques, qui certifie qu'en effet, c'est bien la doctrine qu'eux-mêmes ont reçue du gars qui les a ordonnés. Oui. Donc il y a une notion très importante, la succession apostolique. Et on recourt à cette tradition pour vérifier. Alors ici, le cas d'Éphèse, dont le premier évêque a été ordonné par Saint Jean. Donc pas d'évangile sans église et pas d'église sans évangile. Et c'est important de noter ça parce que, si vous voulez, je crois que le grand ennemi du catholique, enfin, il y a beaucoup d'ennemis, hein, toute erreur est ennemie de la vérité. Mais une des choses qui revient très souvent, c'est un espèce de gnosticisme ou de spiritualisme foutraque. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit à l'Académie française, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit, il y a l'esprit du Christ. Ben, je suis apostolique parce que j'ai l'esprit des apôtres. Vous voyez ? Alors que dans le catholicisme, vous avez en même temps une constatation physique. Est-ce que physiquement, tu as été ordonné par un évêque qui lui-même tient son ordination d'une lignée apostolique ? Et que cette lignée apostolique est restée en communion avec celle de tous les grands sièges. Donc le second, c'était Alexandrie, Jérusalem, et puis ensuite Constantinople et Rome, évidemment. Les quatre ou cinq grands patriarcats qui rayonnaient sur tous les métropoles et les métropoles sur les évêchés. Mais vous voyez, il y avait un système de vérification. C'est ce que fait remarquer Ratzinger dans un livre sur, justement sur le dialogue avec les anglicans. Il dit, mais sans doute le pape était plus discret dans les premiers siècles, où son primat se manifestait plus discrètement, mais il y avait des conciles, des lettres de communion, et on vérifiait qu'on était bien en communion non seulement avec la province. Tous les évêques de Smyrne et des sous-évêques en dessous étaient en communion, mais qu'eux-mêmes étaient en communion avec Antioche, Et Antioche, Alexandrie, Constantinople, plus tard Constantinople, et Rome étaient tous en communion. Et donc c'est en fait l'Église universelle qui juge avec sécurité, comme le dira saint Augustin contre les hérétiques donatistes. Hein, Securus judicator bis terrarum, c'est l'œcuménè, c'est l'Église du monde entier qui a les promesses du Christ. Pas simplement l'Église qui est en France ou l'Église qui est à Paris, etc. Elle est Église dans la mesure où elle est insérée dans l'Église universelle. Et ça, c'est grâce à la tradition apostolique que ça peut se faire. Les apôtres ont donné l'Évangile et ils ont donné aussi des structures qui se sont transmises jusqu'à nous. Et ce sont des traditions, soit qui viennent du Christ, soit qui viennent des apôtres. On pense par exemple que la goutte d'eau qu'on met avant la préparation des oblats dans la messe est une institution apostolique. Et il n'y a pas que ça, il y en a des tonnes. Il y en a tellement qu'on ne sait pas exactement où elles sont, si vous voulez. Mais il y en a plein. Bon. Et on constate en étudiant historiquement ce qu'il y a dans les textes des apôtres, ce qu'on sait qu'ils ont fait par l'histoire, les auteurs non chrétiens à côté, et puis la génération subapostolique, c'est-à-dire celle du IIe siècle, qui n'a pas de rupture. Ça, c'est très intéressant. Il y a des développements, il y a des ajouts, il y a des choses qui s'étoffent, il y a des changements secondaires, mais il n'y a pas de rupture sur l'essentiel des choses. Il y a la fraction du pain, l'Eucharistie, la charité, donc le pape a développé ça dans son skip sur la charité, la diaconie, les lettres de communion, le primat de l'ancien dans l'Église, le fait que les apôtres sont encore au-dessus de l'ancien, etc. Tout ça, ça ne change pas pendant tant qu'il y a des apôtres qui ont vécu jusque vers son décès. Et après, ça continue d'une façon assez homogène. Et c'est très important parce que pour nous, voyez, aux yeux de la dogmatique catholique, c'est vraiment le fait que l'Évangile est vérifié par des hommes qui le tiennent dans une structure fondée par le Christ qui permet d'être sûr de lui. Parce que même l'établissement du texte, ça c'est une des grandes forces justement contre le discours de différents groupes protestants, même l'établissement du texte dépend d'un groupe qui va dire c'est ça qui est canonique, c'est ça qui ne l'est pas. Je vais vous citer un certain nombre de textes, comme la première de Saint-Pierre et d'autres, ben, certains protestants disent c'est pas canonique. Celle de Saint-Jacques, Luther dit c'est pas canonique, parce que ça l'embête, parce qu'il y a un truc qui ne l'arrange pas. Mais tous les chrétiens, jusqu'au XIVe siècle, au XIIe, au XIIIe, XIVe, on considérait que c'était canonique. Donc, puis tout à coup, Martin a dit c'est pas canonique. Quoi. Mais il y a un problème, vous voyez. Il y a un véritable problème qui est un problème sur le réalisme humain. Parce que c'est pas possible qu'une doctrine, si vous voulez, surtout sur des choses plus que métaphysiques, hein, moi je suis métaphysicien, donc j'aime bien faire un peu la référence à ce domaine-là, se maintienne de façon cohérente s'il n'y a pas des hommes pour l'expliciter. Et de façon juste, il faut, comme c'est une chose qui dépasse la raison, qu'il y ait assistance du Christ. Donc, si la doctrine chrétienne est vraie, elle se maintient là où il y a des types qui ont entendu du Christ, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Une succession apostolique. Mais vraiment avec vous, c'est-à-dire pas simplement, t'es avec nous parce que tu vois un peu comment on fait tourner les tables, quoi. Faites pas ça, les gars. Hein. Faites pas tourner les tables. Mais esprit, es-tu là, machin? Bon, je charrie un peu. Hein. Mais il y a des gens qui disent, oui, les apôtres sont avec nous, parce que moi, je connais par cœur en grec tout le corpus paulinien, donc saint Paul est avec moi. Bon, d'accord, mais peut-être que quand tu auras Alzheimer, il sera toujours avec toi, saint Paul. Enfin bon, il y a un problème, quoi. Non, mais je veux dire que c'est gentil, c'est pas tout à fait faux, mais ça suffit pas. Parce qu'on peut se tromper. Non, tout scientifique, tout chercheur, toute personne qui travaille en groupe savent qu'on a besoin d'avoir des gens qui voient un autre aspect. Et dans l'Église, on a ces gens-là qui sont les apôtres, leurs successeurs, assistés par le Christ. Donc cette succession apostolique est une réalité qui est attestée dans le Nouveau Testament. Ça, c'est très important pour le dialogue constructif avec les protestants et les communautés ecclésiales qui se réclament du protestantisme. J'emploie exprès le terme communauté ecclésiale parce que dans la terminologie 50 dernières années, on réserve le mot église à ceux qui ont l'épiscopat valide. Donc aux catholiques, aux orthodoxes et à quelques sectes latines qui ont l'épiscopat. Donc, bon, voilà, c'est des églises, mais quand vous n'avez pas l'épiscopat, vous n'avez pas l'Eucharistie, on ne peut pas dire qu'on a l'ecclésialité complète. On a des éléments comme le baptême, le mariage, l'évangile, etc., ce qui est très bien. Et quelquefois, on les vit avec radicalité et impressionnante. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis kabyles qui sont catholiques aujourd'hui, mais qui ont été convertis au christianisme par des évangéliques, hein, qui avaient une pêche terrible, hein, et qui, au risque de beaucoup de choses ennuyeuses, leur ont annoncé le Christ. Donc, c'est pas mépriser ça, mais c'est incomplet. Le catholicisme, c'est impressionnant, c'est qu'il correspond à son nom. Alors, si vous faites un peu de grec, vous apercevrez que c'est vraiment l'ordonnance de l'ensemble, catholon. Hein. C'est pas un gros tas, comme pan. Pan, c'est tout. Un pan. Le Dieu pan, c'est un gros tas. Quoi. Mais le catholon, c'est que c'est... Vous allez dans n'importe quelle direction, enfin, je vous remercie de me pousser à faire ce café caté parce que j'ai pu vérifier des trucs que je n'avais pas vérifié, ou qui m'ont vraiment intéressé. C'est vraiment, c'est intéressant. Vous me dites, mais vous, vous êtes d'accord au départ. Oui, mais enfin, peut-être. Je pense que le catholicisme est vrai. Mais je le pense appuyé sur des raisons. Il peut y avoir plus ou moins de raisons. Et tâchez d'en avoir quelques-unes pour les communiquer. Donc, c'est attesté dans le Nouveau Testament. Alors, je vous ai mis les textes, et pendant le carême, vous lirez les textes. Comme ça, on peut aller plus vite, quoi. Les fameuses épîtres pastorales, donc les deux lettres à Timothée, les lettres à Tite par saint Paul, dont maintenant on a établi avec vraiment une grande rigueur scientifique par des gens qui parlent le grec de la koiné, l'hébreu biblique mieux que moi le français ou l'espagnol, et donc c'est des gars vraiment très performants et qui ont fait des recherches. Maintenant on est vraiment revenu sur beaucoup de conneries des rationalistes du 19e au début du 20e, hein. Bon, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, mais moi je trouve ça plutôt rigolo, quoi. Parce que je déteste ces types-là, quoi. Enfin, en toute charité, mais bon. Je trouve qu'ils ont vraiment tout fait sauter, quoi. Donc je suis content qu'on leur rentre dans le chou maintenant avec des bons arguments. En toute gentillesse, hein. Mais donc, saint Paul a écrit à Timothée, à Tite, en leur disant qu'il les établissait comme des gens qui allaient transmettre quelque chose par l'imposition des mains. Voilà, la chirotonie, comme on dirait, chiro, ça veut dire poser les mains. Donc tu as reçu, écrit-il à Timothée, une grâce par l'imposition des mains. Oui. Dans le plus ancien écrit de l'Ancien Testament, la première aux Thessaloniciens, qui est de l'an 51, on est sûr de la dater parce qu'on a le consul ou le proconsul de l'époque qui est mentionné par les Actes. Et on connaît à 6 mois près la date donc de la première aux Thessaloniciens, ce qui est fabuleux, quoi. Il n'y a pas beaucoup de textes anciens, même la guerre des Gaules et tout ça, c'est quand même assez performant l'historiographie catholique. Seulement ça, on oublie, quoi. On va dans du copier-coller de l'autre type, là. Fait du copier-coller sur Dan Brown, là, comment il a créé son machin débile, là. Et alors là, ça impressionne parce que c'est croustillant et ça crache sur beaucoup de gens en même temps. Donc c'est puissant au point de vue du crachoir, quoi, mais c'est nul au point de vue de l'historiographie. Parce que si vous vérifiez, c'est pas attesté. C'est pas attesté par les monuments, par l'épigraphie, par les monuments, par... C'est ça qui est ça, l'histoire. Est-ce que vous avez des monuments? Est-ce que vous avez des graffitis? Est-ce que vous avez des images? Est-ce que vous avez des papyrus qui datent de 15 ans après la mort de leur auteur, comme Saint-Jean? Chapitre 14 de Saint-Jean. Bon, si vous ne les avez pas, allez vous habiller chez plus beau et puis foutez-nous la paix. Alors donc, première à Timothée, à Thessaloniciens, il parle de ceux qui président. Alors ceux qui président, c'est pas comme le président du Sénat dont je vous ai parlé, j'ai rien contre lui, hein. Je ne sais pas qui c'est. Quand j'étais petit, c'était un type pas mal. Mais bon, maintenant, je peux viser. Alors donc, c'est pas pour taper sur le président du Sénat, mais bon, il a une présidence d'organisation, si vous voulez, des débats. Mais ceux qui président, hein, ceux qui président dans le Seigneur, ils sont à votre tête. Et donc, saint Paul en parle dès l'an 51. Et les épîtres pastorales qui ont été écrites dans la fin de la décennie 50, là on en est maintenant absolument certain, montrent qu'il a transmis à Timothée, en lui imposant les mains, une charge d'enseigner. Il appelle ça le don spirituel que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et on a des renseignements dans la première à la deuxième de Timothée. C'est transmis par l'imposition des mains, donc vous voyez, c'est physique. C'est assez émouvant, hein. Quand il y a une ordination, on pensait que, voilà, quand l'évêque vous met les mains sur la tête, enfin, moi ça m'est arrivé il y a 33 ans, quelque chose comme ça, bon, j'ai reçu une grâce qui venait de Saint-Pierre, enfin un tas des 12, quoi, je ne sais pas lequel, mais voilà, Saint-Jean, si c'est par Saint-Irénée, quoi. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est physique, et je trouve que c'est très important qu'il y ait une réduction au sensible. À mon avis, la preuve du catholicisme, c'est qu'il enregistre le sensible, le corps, mais tous les sacrements viennent du corps du Christ. Ce n'est pas seulement des idées, des fantasmes. Bon. Donc l'imposition des mains, c'est une charge d'enseignement. Hein. Donc on sait qu'il y a imposition des mains, il y a des prières. C'est un dépôt, c'est marqué comme un dépôt. Le dépôt, ce n'est pas un lingot qu'on dépose à la Banque de France ou je ne sais pas quelle est la banque actuelle où on peut déposer ces lingots. Ben, j'en ai pas. Enfin, si vous voulez m'en offrir un pour les constructions, peut-être comme on est comme 50 ans, mais je ne sais pas où il faut le mettre. Mais le dépôt, ce n'est pas un truc immobile, hein. C'est un dépôt dans l'intelligence. Et dans l'intelligence de la foi, donc c'est vivant. Mais c'est quand même quelque chose qui est à respecter, un dépôt. Au Timothée, garde le dépôt. Et à chaque fois qu'on voit ces rites, saint Paul met en garde contre les déviations doctrinales. Donc vous voyez, toute la structure de la succession apostolique est faite pour transmettre dans la vérité la doctrine apostolique et les traditions apostoliques. Et contre les déviations de l'hérésie et de la séparation. Voyez, c'est constant, ça. Dans saint Jean, dans saint Paul, dans saint Pierre, dans l'épître aux Hébreux. Donc c'est très intéressant de voir cette adjonction des deux éléments. Et en particulier dans la deuxième à Timothée, je crois que je vous ai donné le texte pour celui-là, dans la deuxième à Timothée, voilà, je l'ai même souligné, Il faut que tu confies à des hommes sûrs ce que tu as reçu de moi, à des hommes qui sont capables à leur tour d'en instruire d'autres. Donc, vous voyez, saint Paul dit, je t'ai établi évêque dans tel an, enfin, à l'époque on appelait ça ancien, presbytre, enfin, le terme épiscopat se spécialise un peu plus tard, mais je t'ai établi le chef dans, dans un endroit, et même dans plusieurs églises, était délégué apostolique, veille à établir des responsables dans chaque communauté, qui ensuite en établiront d'autres. Donc, vous voyez, saint Paul prévoit sa succession, ce qui est quand même assez logique, hein. Il faut quand même un petit peu de bon sens. Saint Paul, qui avait été à Jérusalem discuter le bout de gras avec, enfin pas le bout de gras si, c'est, si c'était pas cachère, mais enfin il a discuté avec Saint Jacques et Saint Pierre, il a vérifié son évangile pour vérifier qu'il ne disait pas des carambistouilles. Donc il avait reçu du Christ, mais il voulait vérifier. Et donc, et il savait que le Christ avait dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et les portes de l'enfer ne prendront pas sur vous. Et ces gars-là vont mourir, ils le savent qu'ils vont mourir. Hein, parce que la persécution se resserre, Saint Paul l'avait plus ou moins vu. Saint-Pierre et tout, etc., c'est la persécution de Néron. Alors, ils vont mourir et puis, cool, quoi. Ils font rien. Ils disent, ben, les gars, voilà, gardez un bon esprit, quoi. Réunissez-vous de temps en temps, mangez une pizza au sorbon, puis ça va se maintenir comme ça jusqu'en 2732, date de l'Apocalypse. Peut-être, je trouve un peu plus. Comme ça, quoi. Non, mais attendez, il faut être un peu raisonnable. Parce que Dieu agit par les causes secondes. C'est dit, c'est jusqu'à la fin des temps. Donc, attends, tu prévois un gars qui va te succéder. Hein, le bon chef, il prévoit que ses dossiers sont en ordre quand il passe au suivant, hein. Attention aux transmissions, là, que ce ne soit pas le foutoir dans vos entreprises. Alors, donc Timothée reçoit la nécessité de transmettre la charge et il reçoit également un rôle de chef de délégué apostolique par rapport aux anciens. Dans Timothée et dans Pierre, on voit le mot presbytre, presbyteros, et puis les anciens, c'est le même mot d'ailleurs, c'est la traduction, et puis on voit épiscopos, épiscopoi au pluriel, qui apparaît un peu plus tard, enfin, qui apparaît dès le début, mais qui se spécialise un peu après. Donc il y a des responsables. Hein. De même, Paul fait ça pour Tite, à Crète, il dit « Je t'ai laissé à Crète pour que tu luttes contre les faux apôtres, pour que tu gardes la saine doctrine. » Donc souci constant, vous voyez, dans la transmission apostolique, de garder la saine doctrine, et saint Pierre fait la même chose dans son épître. Il dit à ceux qu'il établit comme anciens, paissez le troupeau du Dieu qui vous a été confié. Et puis vous recevrez la récompense du chef des pasteurs. Donc vous voyez, il y a vraiment un souci de saint Paul, de saint Pierre et des autres apôtres de transmettre ce qu'ils peuvent transmettre à des responsables pour que la doctrine soit gardée et les traditions soient gardées. Et ça, je crois que c'est absolument établi par le texte du Nouveau Testament, en particulier la fameuse réunion à Milet, quand saint Paul monte à Jérusalem, il sait qu'il va être coincé, mais Saint-Esprit le pousse à aller à Jérusalem, il sait qu'il va être dénoncé, livré, capturé. Il réunit donc tous les anciens d'Éphèse, donc c'est, si vous voulez, c'est les prêtres évêques de l'époque, à l'époque c'était pas distinct, d'Éphèse qui viennent à lui à Milet, et il fait son discours d'adieu, il pleure, il s'embrasse, il tombe à genoux, c'est une scène absolument magnifique. Et il leur dit, soyez attentifs à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque, épiscopoi. C'est un mot grec qui veut dire surveillant. Voilà. Donc voilà, il y a dans les épîtres pastorales, il y a une succession apostolique. La réalité est là. Alors le mot, quand est-ce qu'il apparaît? Ben, il apparaît dans un texte très intéressant qui a été écrit par Clément, qui est un successeur de Saint-Pierre, hein, le troisième successeur, après l'un et Clé. Donc évêque de Rome, qui a connu les apôtres, et qui écrit en l'an 96 à l'église de Corinthe. Et donc dans ce texte, donc, qui est un texte extrêmement important, qu'on a appelé l'épiphanie, épiphanie c'est la manifestation de la primauté. On s'est rendu compte que l'évêque de Rome se considérait comme en mesure de donner des conseils, et même impérativement, à l'église de Corinthe, qui n'était pas rien, parce qu'elle avait été fondée par saint Paul, quand même. Oui. Et il écrit ça du vivant de saint Jean. Il est qu'en 96, saint Jean est encore en pleine forme. Hein. Enfin, je ne veux pas, il ne faut peut-être pas le 100 mètres en seconde, mais il est bon, quoi. Bon. Alors, il écrit, nos apôtres ont su qu'il y aurait des disputes au sujet de la dignité de l'épiscopat. Là, il en parle au singulier. Donc, on se demande si déjà en 96, on n'était pas arrivé à l'idée de l'épiscopat monarchique, parce que l'ensemble des anciens presbytres, au début, prêtre-évêque, c'est la même chose. Mais comme, bon, pour des raisons pratiques, et sans doute apostoliques, parce que ça s'est fait très tôt, on a dit, bon, écoutez, dans une église, il y a les anciens qui peuvent tous dire l'Eucharistie, mais il y en aura un seul qui pourra imposer les mains aux autres pour en faire des anciens. Et c'est là où le terme épiscopos a été réservé à ceux qu'on appelle aujourd'hui les évêques. semble-t-il. C'est un peu discuté, mais ça s'est probablement produit comme ça. Donc, il y aura des discussions sur cette dignité-là, le chef de chaque église. Donc, il dit formellement, sachant très bien ce qui allait advenir, les apôtres instituèrent les ministres que nous avons dit et posèrent ensuite la règle qu'à leur mort, des hommes éprouveraient prendraient leur succession. Donc, vous avez, voilà, succéderaient à leur fonction, vous avez le mot de la succession. Et ensuite, dans cette épître qui est très développée, où il discute de problèmes disciplinaires, il explique les apôtres viennent du Christ, le Christ vient de Dieu, et tout ça est parfaitement un ensemble cohérent, vous voyez. Dans la pensée patristique, il y a vraiment Dieu envoie le Christ envoie les apôtres. Et c'est l'ordre définitif. Hein. Il n'y a pas de troisième économie, comme ont pensé certains hérétiques, et comme c'est le cas, une tentation nouvelle, vous voyez, Joachim Flore et d'autres ont pensé qu'on arrivait à l'ère des spirituels dans l'âge de l'esprit, que l'ancienne économie fondée sur les évêques était périmée, parce que les évêques étaient pourris, etc. Non, ça n'existe pas. Quelle que soit la forme que prend l'idée que la hiérarchie s'arrête, complètement, on arrive à une hérésie, contraire à l'évangile. Donc ces gens-là, vous voyez, les apôtres, nous dit Clément, ont établi parmi les fidèles des gens évêques et diacres des futurs croyants. Donc on voit qu'il y a deux désordres, évêques et diacres, qui sont mentionnés. Donc entre Saint Clément de Rome, troisième évêque de Rome, et Saint Paul, il n'y a qu'une évolution de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a le mot succession apostolique, et puis on parle d'évêque, alors que Timothée était délégué apostolique, et qu'il avait la surveillance de plusieurs églises, donc avec plusieurs évêques à la tête. Donc vous voyez, là on a des textes très très forts et très intéressants. Donc on sait que cette épître est du 1er siècle, hein. Et Saint Irénée, donc notre primat des Gaules, un des premiers primats des Gaules, pas le premier, parce qu'il y en a eu un avant, quelques-uns avant, mais quand même, donc Saint Irénée, lui, commente ce texte en disant voilà les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Et il commente ce texte contre les hérétiques en disant mais voilà, moi je peux vous raconter les fastes épiscopaux, c'est-à-dire la liste des évêques de toutes les grandes églises apostoliques, donc il les connaissait. Donc elles étaient gardées, vous voyez. Et c'est pas tellement étonnant. C'est pas tellement étonnant. Il y a des gens qui sont passionnés de généalogie et qui arrivent à faire remonter leur arbre jusqu'en 16e ou 15e siècle. 11e siècle, c'est un peu plus difficile. Hein. En France, il n'y a pas beaucoup de familles qui font ça. Mais enfin, des fanas, quoi. Et avec une certitude, quand même, quelquefois un petit peu douteuse. Hein. Bon. Et à part les familles royales, il n'y en a pas beaucoup qui remontent à l'an 1000. Mais vous pensez que là, on était à 200 ans d'un fait qui a changé l'histoire du monde, et tout le monde était passionné de ça. Il y avait des fanas comme Hégésippe qui couraient les églises et qui notaient toutes les listes des évêques. Hein. Et donc, heureusement, après, 100 ans après Hégésippe, on avait ces notes et on recopiait ça. Quoi. Ce qui fait qu'on a des témoignages très intéressants par des spécialistes qui étaient quand même pointus et qui étaient en opposition avec des hérétiques qui les contredisaient. Donc, s'ils avaient pu prouver que ces évêques actuels catholiques n'étaient pas les descendants des apôtres, ils ne seraient pas gênés. Et on en aurait quand même quelques traces. C'est difficile de faire une supercherie mondiale, parce qu'à l'époque, enfin mondiale au point de vue de la romanité, si vous voulez, sans qu'il y ait aucune trace. C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Bon. Enfin, on peut toujours dire ça quand on est à la Charenton, mais dans la vie normale, on ne dit pas. Alors, donc, Saint Irénée nous dit, voilà, il y avait une discussion dans l'église de Corinthe. Aussi, l'église de Rome a écrit une lettre. Et là, on note une chose très intéressante, c'est que Saint Irénée présente la lettre de Clément comme une lettre de l'église de Rome, vous voyez. En fait, vraiment, comme Clément, évêque de Rome, écrit et que la continuité ecclésiale est plus importante que le titulaire. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il y a un évêque à Rome. Alors, s'il a les yeux bleus et qu'il plaît aux dames, tant mieux, si vous voulez, enfin, d'une certaine façon. Pas trop, quand même, hein, mais enfin, bon. Dans la limite des fois des mœurs, tant mieux. Enfin, le problème, c'est qu'il soit successeur des apôtres. Hein. Même s'il m'énerve, ou si l'actuel ne m'énerve pas, mais non. Il est possible qu'un pape m'énerve, c'est pas absolument impossible, mais... Mais il n'est pas prêt. C'est comme ça qui est important. Et ça montre, vous voyez, qu'on est fondé sur des sources objectives. Et que la dévotion au pape, c'est vrai que, bon, nous, les Français, depuis Pie IX, on a fait pas une fixation au papisme, mais à juste titre. Enfin, on a, à cause des attaques contre le Saint-Siège, on s'est beaucoup regroupé, enfin, toute une partie du catholicisme, peut-être la meilleure part, autour de la dévotion au pape, et c'est excellent. Hein. Mais il faut que cette dévotion soit théologique. Hein. C'est une dévotion au siège apostolique et tant mieux si la personne qui détient le titre est en plus notre ami ou quelqu'un qui nous aime bien, quoi. Qui aime bien le café caté, par exemple. Ce n'est pas strictement impossible. Voilà. Donc, alors lui, René, dit, attendez, mais il y a des gars qui racontent des trucs invraisemblables. Et nous avons cette lettre de Saint Clément. Hein. Donc, il dit, moi, je pourrais citer les listes de tous les évêques de partout, mais comme je n'ai pas le temps, je vais aller à l'église principale, je reviendrai sur ce texte qui est fondamental. L'église dans toutes les autres doivent tirer à quelque chose, celle qui est la plus importante à cause de sa plus grande autorité, et je vais regarder la liste. Hein. Donc les bienheureux apôtres qui fondent l'église, c'est affirmé formellement par Irénée. Pierre et Paul ont fondé l'église de Rome. On va voir, c'est surtout Pierre, mais enfin Paul a un rôle aussi. Après lui arrive l'un qui reçoit la charge de l'épiscopat, Anaclet, donc Clé, si vous voulez, et après Clément. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on lit au canon romain. L'un, Clé, Clément, etc. C'est les premiers évêques de Rome. Le seul évêque non romain qui est nommé, c'est quelqu'un qui s'était disputé avec les évêques de Rome un peu plus loin. D'abord, c'est Saint Cyprien. Ça, c'est rigolo. Il était quand même catholique, mais il avait son foutu caractère. Et mais il est dans le canon romain. Et donc, vous voyez, il décrit, voilà, et ça suffit. Et il dit, mais Clément leur écrit, mais attendez, il avait vu les apôtres, et il y avait autour de lui plein de gens qui avaient vu les apôtres, donc il avait leur tradition sous les yeux. Donc quand il a écrit à l'église de Corinthe, faites ci et faites pas ça, ben il savait ce qu'il fallait dire. C'est très fort comme argument. C'est maintenant Éleuther, donc c'est Saint Irénée qui avait été à Rome. Hein. On se déplaçait quand même pas mal à l'époque, il n'y avait pas, EasyJet, mais on allait par la poste. Pas impérial, mais à partir de Constantin, les évêques sont baladés par la poste impériale. C'était hyper performant. Quand vous regardez les temps, hein, pour aller de Jérusalem à Rome, c'est affolant. Mais enfin, on allait vite quand même, hein, même si on n'avait pas le courrier impérial. Et donc, il se baladait et il a vu Éleuther. Donc, de ses propres yeux. C'est Éleuther qui, en 12e lieu à partir des apôtres, détient la fonction de l'épiscopat. Voilà par quelle suite et quelle succession la tradition se trouvant dans l'Église à partir des apôtres et la prédication de l'Église sont parvenues jusqu'à nous. Oui, donc c'est magnifique, quoi. Ces textes de Saint Clément et Saint Irénée sont vraiment, je dirais, historiquement fondateurs d'une certitude, c'est que la succession apostolique est une réalité historiquement attestée. Donc ça permet de dire, s'il y a une vraie Église du Christ, elle n'est pas là où il n'y a pas d'évêque. Le vrai évêque, descendant des apôtres. Deuxième point, le primat du pontife romain. Alors là, on va progresser d'une façon un peu différente. On va progresser un peu a posteriori. Je vous avais esquissé avec la belle citation de Soloviev, Vladimir Soloviev, donc un converti de l'orthodoxie, un orthodoxe tout à fait remarquable, littérairement assez puissant. Et je vous l'avais cité parce que le cardinal Journet, qui est un de mes auteurs de prédilection, l'aime beaucoup. Soloviev. Évidemment, est arrivé un peu comme Newman par une autre voie à la vérité du catholicisme, précisément par l'idée que si un des groupes chrétiens tient la route, ça peut être que le groupe romain. Tout simplement parce qu'il est seul à remplir la totalité des choses qui sont dans l'évangile, et spécialement Matthieu 16, 18. Tu es pierre sur cette pierre, etc. Si cette phrase n'a pas eu d'effet dans l'histoire, ben, elle en a eu nulle part. Donc, on va reprendre un peu ça d'une autre façon. On va remarquer un truc, c'est que l'évêque de Rome. Donc on l'appelle le pontife romain, si vous voulez. Si vous trouvez que c'est un peu pompeux, parce que les progressistes discutent beaucoup sur beaucoup de choses. Alors les progressistes sont à la fois agaçants et simulants. Parce que bon, quand ils discutent sur un truc, on va chercher les bouquins pour leur répondre, bien sûr. Donc ça entretient l'affection et la controverse. Quand il n'y a plus de controverse, on s'ennuie fermement. Et donc les progressistes disent, ouais, mais la pontife, c'est un terme qui vient des empereurs. Ben, je m'en fous. Sans doute, ça vient des empereurs. Pontifex Maximus, c'était le César, hein, qui était le suprême sacrificateur de la religion impériale. Bon. Mais ça fait rien, on l'a emprunté, les insignes impériaux ont été empruntés par la papauté, pas seulement par elle, hein, aussi par les basileuses, enfin, l'empereur byzantin, et puis ensuite l'empereur du Saint-Empire romain germanique a pris les signes impériaux romains. Mais bon, l'évêque de Rome a eu conscience de son primat sur toute l'Église. Alors, après, on verra comment ça se fait. Tiens, tout d'un coup, comment ça se fait que c'est l'évêque de Rome. On va voir, parce que c'est Pierre qui a fondé l'Église et qui a été le premier évêque. Mais même en laissant ça provisoirement de côté, il y a un gars qui est là et qui, pendant 5 siècles, enfin, le gars, il est sous-gars, si vous voulez, qui lui suivent, quoi. Hein, l'évêque et puis les successeurs, qui dit, j'ai un primat, pratiquement, je vais exercer un primat sur tout le monde. Je vais juger Alexandrie. Alexandrie, attendez, c'est une ville énorme avec... prestige absolument invraisemblable. Hein. On n'a pas encore brûlé la bibliothèque. Hein. Je ne sais pas qui l'a brûlé, d'ailleurs, mais enfin... Bon. Mais, bon, la première bibliothèque du monde était Alexandrie, quoi. Bon, c'était pas... Bon, Rome, c'était pas mal, mais enfin... Bon, Antioche, etc. Et moi, je vais donner des ordres là-dedans. Pendant 3-4 siècles, c'est comme ça. Et après, c'est encore plus explicite. Non seulement les papes continuent à donner des conseils, des ordres, etc., l'évêque de Rome, mais même, ils disent explicitement qu'ils ont le droit de le faire, de façon de plus en plus ouverte. Alors, je vais simplement, vous avez des noms que j'ai arrêtés au schisme avec l'Orient, dissident avec le patriarche Michel Cérulaire en 1050. On pourrait rester sur la partie qui nous est commune avec les orthodoxes. Ceux qu'on dit orthodoxes, mais nous sommes orthodoxes. Et eux se disent aussi catholiques, donc vous voyez, on se marre bien. Bon. Alors, donc il y a des actes. Alors d'abord, on a parlé de Saint Clément. Donc Saint Clément, épiphanie de la primauté en 96. Saint Jean était vivant. Hein. Saint Jean était vivant, Saint Clément écrit, tenez, vous allez faire comme ça, il y a une question, vous avez déposé des prêtres qui avaient chahuté, qui avaient fait je ne sais pas quoi de bien, ben, vous les remettez en place parce qu'ils sont catholiques, etc. SVP et compagnie. Hein. Bon. Et donc il a revendiqué ça. Saint Étienne répond à une question du synode de Carthage, donc la métropole de toute l'Afrique, et même en Tunisie, en imposant aux évêques africains, il y avait 400 ou 500 évêques africains. C'était tout le Maghreb, c'était couvert d'évêchés, depuis le bout du Maroc jusqu'à Cyrénaïque, et voilà, tout ça c'était un territoire entièrement, une des plus grandes chrétientés qui ait jamais existé, chrétienté africaine. Et donc, très importante, avec Saint-Cyprien de Carthage, etc. Et il disait, quand un type vient de l'hérésie, s'il a été baptisé par un hérétique, il faut le rebaptiser, glou glou glou. Il faut le rebaptiser. Actuellement, vous avez, moi je connais un peu les orientaux, les dissidents aussi. Et il y a des gars qui sont rebaptisants. Il y a des gars qui pensent que je ne suis pas prêtre. Parce que je suis romain, donc l'église romaine n'a pas le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux pas communiquer l'épiscopat. Alors c'est un peu des radicaux. Hein. Je ne pense pas que le patriarche œcuménique soit d'accord. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qu'on appelle les rebaptisants. Quand tu n'es pas dans leur groupe, tout ce que tu fais est invalide. C'est tout à fait contraire à l'esprit catholique. Et Saint-Étienne répond au synode de Carthage, vous ne rebaptisez pas les hérétiques, vous vérifiez s'ils ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que nici l'innovetur, nisi quod traditum est, c'est un terme célèbre pour ceux qui ont entendu un peu ces choses-là. Ça veut dire qu'on n'amène aucune innovation par rapport à la tradition apostolique. Quod traditum est, c'est moi, Étienne, en 257, je vous dis ce que faisaient les apôtres, ce qu'on a toujours fait. Donc c'est extrêmement impressionnant cette décision. Voilà. Ensuite, Saint Jules Ier casse les sentences des synodes et des conciles orientaux ariens qui avaient déposé Athanase et 50 évêques égyptiens. Athanase, c'était un type comme ça. Hein. Il était vraiment orthodoxe au vrai sens du terme, mais les Antiochiens étaient contre lui et les orientaux n'arrêtent pas de se disputer. Enfin, nous aussi, les occidentaux, mais chez eux, c'est encore plus pointu. Quand on dit les disputes byzantines, c'est un peu méchant, mais il y a un peu de ça. En tout cas, les Antiochiens et les Alexandrins ne s'entendaient pas. Donc, on dépose Athanase, on fait appel, et Rome donne raison à Athanase. Ce qui est quand même pas rien contre Alexandrie, contre eux. Voilà. Il impose une décision sur l'évêché d'Alexandrie. Et il écrit aux Éthiopiens, ignorez-vous que c'est de ce siège romain qu'on doit décréter ce qui est juste. Donc, il exerce vraiment une certaine juridiction. Voilà, on pourrait continuer. Saint Cyrus, qui tranche une chose sur le célibat apostolique, clérical, à un évêque... catalans, si vous voulez, Tarragone. Saint Innocent Ier, à nouveau un concile de Carthage. Bon, voilà. Et donc, une pratique, si vous voulez, de dire, ben, j'ai mon mot à dire partout. Ce qui est assez surprenant, il ne se mêlait pas de tout, mais dès qu'il y avait une question concernant la foi, ça montait à Rome. Ou sur une décision comme le baptême, très importante, ça montait à Rome, une sentence arrivait, elle était reçue. Et ensuite, à partir du 5e siècle, alors je vous ai mis toute une liste, on ne va pas la faire en détail, mais de décisions formelles de pape qui disent, eh bien, nous allons vous dire ce qu'il faut croire, et nous vous le disons, parce que nous sommes sur le siège de Pierre. Saint Zosime Ier, pour la doctrine anti-pélagienne, les évêques d'Afrique, donc, avaient émis des décisions contre les pélagiens. Les pélagiens, si vous voulez, c'est des volontaristes qui disaient, on sauve à coup d'œuvre, etc., la grâce n'est pas importante. Eh bien, donc, ils avaient condamné ces gens-là. Saint Zosime confirme leur condamnation en disant, parce que Pierre est l'origine de mon autorité. Saint Boniface Ier aux évêques de Macédoine, dont je vous prends des exemples géographiquement, si vous êtes un peu baladé, je sais que votre génération est assez baladeuse, mais dans ces coins, moi j'ai pu aller en Macédoine, par exemple, un peu après un tremblement de terre, donc vous voyez, c'était il y a très longtemps, et donc en Macédoine, donc maintenant c'est devenu un État autonome. Donc Saint Boniface et quelques évêques de Macédoine, vous allez voir par des documents tout à fait certains, que les églises orientaux ont toujours fait recours au siège apostolique, siège romain. Saint Léon Ier à Thessalonique, donc encore une partie, si vous voulez, au sens large de la Macédoine. Non, mais un siège important, parce que c'est un siège apostolique, fondé par Saint Paul, confirmé par Saint Paul. Il explique qu'il y a des siècles plus importants les uns que les autres. Déjà, il y avait les archidiocèses, les métropoles, et on envoyait les choses de l'évêché à la métropole et de la métropole à Rome, habituellement, ou au patriarche, mais à Rome. La charge universelle de l'Église doit confluer vers l'unique siège de Pierre. Saint Gélase, vers la fin du 5e siècle, fait la liste des livres qu'on doit considérer comme canoniques. Donc ça, c'est très important. Parce que notre canon qui fait que nous considérons comme inspiré par le Saint-Esprit un certain nombre de livres et pas d'autres, nous vient d'une tradition ininterrompue qui remonte au 2e siècle, dont le décret gélasien est une étape extrêmement décisive. Et alors, il y a un truc très intéressant, c'est Saint Hormisdas, qui est écrit à Constantinople. Alors, Constantinople, c'est important. Enfin, c'était important. Enfin, on peut dire que c'est toujours important. Mais comme il n'y a pratiquement plus de Grecs, je crois que le patriarche diocuménique actuel doit avoir 5 à 10 000 sujets. Quoi. Et les Turcs font bien en sorte qu'il n'y en ait pas plus. Quoi. Et donc, c'est très compliqué. On se demande comment ça va se terminer. Parce que, théoriquement, d'après la plupart des orientaux, reconnaissent une sorte de primat d'honneur au patriarche de Constantinople. Parce que ça avait été un siège qui était joint à la résidence du Basileus de l'Empereur. Mais les tensions ont commencé très vite. Dès que Constantin était là-bas, entre 350 et puis les premières ruptures, 800 et quelques, il y a eu des tensions, parce qu'évidemment, les Grecs disaient, d'abord on est près de l'Empereur, et ensuite on est quand même plus finaux que vous. Les Latins, vous êtes poilus, quoi, vous vous sentez mauvais. Ce qui était vrai, parce que les Latins, c'était des gens envahis régulièrement par les Lombards, par les Gaulois d'abord, par les Lombards ensuite, par les Francs, par les ceux-ci, les Germains, les Visigoths, les Alains, alors que les autres, ils étaient quand même, c'était les Byzantins, quoi. Ils étaient propres sur eux, quoi. Quand on était porphyrogénète, c'est qu'on était de la famille qui était née dans la pourpre, on se prenait pas pour... Il y a un orgueil assez impressionnant. Mais vous avez le même chez les Latins, d'une autre façon. Bon. Mais alors là, donc on est clair à Constantinople pour mettre au point les pendules sur un point très important, sur les erreurs christologiques, parce qu'il y a eu toutes des bagarres, à n'en plus finir, sur la véritable, je dirais, composition du Christ, la nature humaine, la nature divine, et l'unique personne divine. Bon. Et il a fallu plusieurs conciles, essentiellement Éphèse et Chalcédoine, pour arriver à la définition magnifique, immortelle du concile de Chalcédoine, 451, avec quatre adverbes grecs qui sont écrits dans les cieux et qui définissent vraiment l'union des deux natures sans mélange et sans séparation. Sans mélange contre les monophysites, qui sont actuellement représentés un peu par la tradition copte arménienne, et sans séparation par les nestoriens, qui sont représentés un peu par la tradition syriaque orientale. Alors aujourd'hui, c'est plus flou, mais enfin, à l'époque, c'était très net. Donc il y avait des erreurs des deux côtés. Et il fallait trouver le chemin. Et ça a mis un certain temps. Et le chemin a été trouvé grâce à Nicée, Éphèse et Chalcédoine. Toute l'Église, la christianisme est fondée là-dessus. Bon. Et donc Saint Hormisdas a envoyé un formulaire de foi, et il a dit, vous signerez ce truc-là, aux gens de Constantinople, et vous écrirez, suivant toute chose de siège apostolique, j'espère mériter de rentrer dans la communion que prêche le siège apostolique, communion dans laquelle réside, entière et vraie, et parfaite, la solidité de la religion chrétienne. Donc, au début du 6e siècle, un pape latin, enfin, je ne sais pas s'il était latin, Hormisdas, parce qu'il y a eu des papes grecs et syriens jusqu'à assez longtemps, un évêque de Rome, écrivait à Constantinople en disant voilà la réalité sur le Christ. Et puis les autres disaient d'accord, c'est bon. Alors après ça continue. Saint Nicolas, alors je vous cite les deux papes du début du schisme oriental. Saint Nicolas, qui écrit à l'empereur Michel, parce que les empereurs avaient une grosse influence sur la partie orientale de l'Église. Contre Phocius, c'est le début du schisme oriental. Hein. Et Cérulaire, c'est malheureusement celui qui va enfoncer en 1050 l'Orient dans une séparation où nous espérons, peut-être les plus jeunes d'entre vous verront la fin. Enfin, je pense qu'il se passe des choses actuellement, grâce en particulier à la profondeur, à la finesse théologique de notre souverain pontife. Bon, donc Saint Nicolas écrit à Michel contre Phocius, et Saint Léon IX contre Michel Cérulaire, dans des termes absolument explicites, où ils disent, je vous transmets la doctrine de Pierre, parce que Pierre, voilà, c'est son successeur, et c'est cet unique siège, voilà, qui est garanti de toute erreur. Donc vous voyez, il y a une pratique d'abord pendant 3 siècles, et une affirmation pendant les 5 ou 6 siècles qui suivent, disant, l'évêque de Rome a le primat sur l'Église universelle. Le disant implicitement par l'action, ou formellement par des affirmations. Et alors, de l'autre côté, l'Église reconnaît ce primat. Alors là, on peut aller plus vite, parce que c'est une vérité qui est aujourd'hui un peu perdue de vue. heureusement, on la rappelle, le livre que je vous ai cité de Ratzinger, il rappelle ça, que les premiers conciles œcuméniques étaient considérés comme valides s'ils étaient validés par le pape qui envoyait ses représentants, et même s'ils étaient prêtres, les représentants passaient avant les patriarches. Ce qui est quand même un truc intéressant. Donc elle est reconnue. Elle est reconnue théoriquement à Saint-Ignace dans la lettre aux Romains. Il y a une lettre absolument impressionnante. C'est Saint-Ignace d'Antioche. Elle a été martyrisée au début, sous Trajan, je crois, au début du IIe siècle. Et on l'a emmené, enchaîné. Bon, il y avait tout un rituel. Et donc il a été emmené à Rome pour être jugé, exécuté à Rome. Et donc il a écrit des lettres sublimes aux églises d'Asie. Et les gens venaient le voir, etc. Et la lettre qu'il a écrite aux Romains est différente de toutes les autres. Et les spécialistes, évidemment, ça suppose de plonger là-dedans et de parler le grec de la koiné mieux que vous, l'anglais commercial. Enfin, vous parlez sûrement tous très bien aujourd'hui, je pense. Mais, enfin, tâchez de bien le parler, pas uniquement pour faire des pognons. Et donc, voilà, Saint-Ignace d'Antioche écrit avec des mots qui sont très explicitement, très certainement, considérés comme la reconnaissance d'une primauté de l'Église. À l'Église qui préside dans la région des Romains. Et là, il y a un terme grec, vous voyez, qui signifie présider. Et quand on analyse les lettres d'Ignace, présider, ça veut dire diriger, commander. Donc on retrouve cette histoire de la présidence. À l'église qui préside dans la région des Romains, donc l'église qui est à Rome. À l'église qui préside à la charité. Alors là, encore autre terme très intéressant. Certains nous ressortent ça aujourd'hui en disant oui, le pape, c'est un mec sympa, il est cool, hein, il est toujours d'accord avec tout le monde, enfin il doit l'être, s'il n'est pas d'accord, on lui envoie dire, etc. Et c'est un gars. Il préside à la charité. Sous-entendu, il est gentil avec moi, quoi. Enfin, je suis un peu méchant, mais c'est une charité gélatineuse, hein, mais ce n'est pas la charité de Saint-Ignace d'Antioche. Présider à la charité, ça veut dire diriger toute la vie chrétienne. Et ça, on le montre avec des textes formels. Hein. C'est le culte, hein, la doctrine et la liturgie. Donc, il préside à la charité, et puis il y a toute une accumulation d'adjectifs. Ceux qui connaissent la liturgie byzantine, que vous avez à Saint-Julien-le-Pauvre, pas loin, par exemple, savent qu'elle est extrêmement... somptueuse, enfin pour les adjectifs, ça n'en finit pas. Mais alors, donc là, il y a deux mots très beaux, hein, qui portent la voix du Christ, qui portent le nom du Père. Christonomos patronimos. Donc, ça veut dire qu'elle porte le nom du Christ, ça veut dire que le nom, c'est très important pour les orientaux, c'est vraiment, c'est elle qui représente le Christ. Et là, le nom du Père, alors le Père pour Ignace, qui est une théologie trinitaire très forte, insistant sur l'origine à partir du Père, c'est vraiment l'origine. Quoi. Donc l'Église romaine est l'origine. Quoi. Elle porte le nom du Père. Donc il y a une très très belle lettre. Et en plus il dit, en écrivant en romain, je vais bientôt mourir, moi qui préside à cette église de Syrie, hein, et bientôt, elle n'aura plus comme chef que Jésus-Christ et votre charité. C'est-à-dire vous les Romains. Donc après ma mort, vous les Romains, vous l'église de Rome, donc l'évêque de Rome, vous présiderez toujours à l'église de Syrie. Ça c'est bouleversant, un type qui va être boulotté par les léopards, enfin, ça dépend de l'arrivage, ou des tigres, enfin. Et il écrit des lettres absolument magnifiques. Ne m'empêchez pas d'aller verser mon sang pour le Christ. C'est lorsque j'aurai été mangé par les bêtes que je serai le froment du Christ. Et c'est là-bas, au ciel, que je serai vraiment un homme. Laissez-moi saisir cette pure lumière. Enfin, il y a des textes fabuleux, c'est Ignace. Alors, Saint-Irénée, on l'a déjà dit. Tertullien, dans sa période catholique, dit au type qui s'oppose à lui dans son traité sur la prescription des hérétiques, « Si tu es dans tel endroit... » Ben, va à Éphèse, si tu es à tel endroit, va à Smyrne, si tu es à tel endroit, va à Thessalonique, va à Corinthe, va là où il y a une église fondée par les apôtres. Et si tu es proche de l'Italie, tu as Rome, dont l'autorité s'étend à nous aussi, hein, donc dans tout l'Occident. En effet, quelle église heureuse à laquelle les apôtres ont infusé toute la doctrine avec leur sang. Ça, c'est très important, le martyr de Pierre et Paul, hein, qui est le sceau de l'apostolat, c'est le martyr. Donc, Tertullien, qui a fini un peu hérétique sur les bords, malheureusement. Mais parce qu'il est sorti de l'union, ouais, il faut jamais s'isoler. On peut devenir hérétique, et c'est quand même très embêtant. Même aujourd'hui. Donc il est sorti de l'œcuménisme de l'âme. Et donc, mais il dit voilà, c'est cette église qui a reçu la doctrine avec le sang de Pierre et Paul. Saint Cyprien s'était disputé avec le pape. Ben, dès qu'il avait un problème, il écrivait à Rome. Alors il discutait, il pinaillait, il n'était pas d'accord sur l'extension du pouvoir, mais il reconnaissait le pouvoir. Et il tenait compte des décisions prises par eux. Et Saint Jérôme, il y avait une dispute dans une église, une dispute célèbre à Antioche, où il y avait deux évêques qui avaient chacun établi par quelqu'un de très important. Et Saint Jérôme écrit au pape Damas. Damas, c'est celui qui lui a dit, vas-y, retraduit-toi à partir de l'hébreu, quoi. Donc il avait un sacré boulot, quoi. Mais Jérôme, c'est un génie de mauvais caractère. Il s'est engueulé avec saint Augustin. Il est marrant. C'est bien qu'il y ait des saints comme ça. Qu'il n'y a pas que des saints ratlokum, quoi, qui sont tout gentils. Tout... Il y a aussi des emmerdeurs, mais qui sont saints aussi. Là, ça vous donne un courage un petit peu. Enfin, moi, ça fait un peu. Donc il dit, écoute, moi je suis ni en communion, enfin, Mélès, je m'en fous, Paulin, je m'en balance. Enfin, Paulin était soutenu par Athanase et Mélès par Saint Basile, excusez du peu. Donc il y a, quand on est problème compliqué, on peut se dire qu'à l'époque, entre Saint Basile et Saint Athanase, c'est un beau match. Hein, bon. Alors lui, il dit, moi, je suis associé avec le mignon de Sèche de Pierre, voilà, et c'est tout. Et donc, vous voyez, théoriquement, ils ont reconnu la communion, ils ont reconnu le primat du pontife romain, et pratiquement, ils ont cessé d'intervenir. Clément chez les Corinthiens, Saint Victor qui a même excédé en fixant la date de Pâques. Bon, finalement, ça a prévalu sa date, mais d'une façon tellement radicale qu'il excommuniait tous les mecs qui n'étaient pas d'accord. Alors, donc, là, on a dit, attends, tu pousses un peu. Hein, Polycarpe d'Éphèse et Saint-Irénée ont dit, attends, tu pousses un peu. Personne n'a dit, tu n'as pas le droit de le faire. Ça, c'est très intéressant. Personne, aujourd'hui, on dit, ah, mais le pape, il n'a pas le droit, le pape, non, mais il ne peut pas, il a, ça, non, personne, il a fixé la date, pape, il a un peu forcé, mais heureusement, après, comme il voyait que ça râlait, il n'a pas appliqué ses excommunications, quoi. Mais sa décision a fini par prévaloir. C'est vraiment intéressant, ce genre de truc. Hein. Mais, voilà. Bon, ensuite, il y a les appels à Rome, au 2e et 3e siècle, qui sont monnaie courante. 60 ans avant Nicée, hein, Denis d'Alexandrie, est accusé de tas de choses. Il écrit à Denis de Rome, le pape de Rome, et en 262, donc 60 ans avant Nicée, Denis d'Alexandrie, d'après les meilleurs textes, qu'on a un peu du mal à établir le texte, répond en disant « Tu as raison, le Fils est consubstantiel au Père. » Donc c'est extrêmement important, alors que c'était le siège d'Alexandrie. Et ensuite, il y a toujours les appels qui continuent, mais au 3e et 4e siècle, quand on veut savoir si un évêque, parce qu'il y a souvent des discussions, savoir quel est l'évêque catholique. Eh bien la réponse qui se dessine très rapidement, c'est l'évêque qui est en communion avec le siège de Pierre. Ça, on en a des témoignages absolument explicites. Pour l'Afrique, ceux qui sont en communion avec le siège de Pierre, c'est ceux qui ne sont pas donatistes. Les donatistes, c'était des gars assez spéciaux, qui étaient des rebaptisants, enfin, qui étaient vraiment très, qui disaient qu'il ne faut pas recevoir ceux qui ont livré les livres dans les persécutions, qui ont donné les livres aux persécuteurs, enfin, qui étaient des anti-miséricordieux, si vous voulez. Donc, les catholiques étaient ceux qui étaient contre eux avec saint Augustin, avec le siège de Rome. Bon. En Égypte, quels étaient les catholiques? Ceux qui étaient avec Athanase et le pape, pour l'hérésie arienne, par exemple. En Afrique, en Gaule, en Bretagne et en Syrie, Bretagne, c'est là où on boit du thé, hein, c'est la Grande-Bretagne. Hein, bon. C'est pour le pélagianisme, hein, il y avait un hérétique qui avait diffusé cette hérésie pélagienne, bien, on savait quel était l'évêque qui était bon, c'était l'évêque qui était avec Rome, c'était qui était contre les pélagiens. Et puis, pour les Nestoriens, donc, ceux qui étaient en communion avec Nestorius étaient hérétiques, et ceux qui étaient en communion avec Rome, qui l'a condamné, étaient catholiques. Donc ça, c'est resté, hein, à tel point que ceux qui connaissent les orientaux savent qu'il y a une église qu'on appelle les Melkites. Melkites, ça vient d'une racine sémite qui signifie le roi, hein, et c'était ceux qui étaient en communion avec le Basileus, hein, c'est-à-dire qui étaient en communion avec la foi de Chalcédoine, soutenue par le Basileus, par le roi de Constantinople, par l'empereur, et par Rome, dans ce cas-là. Donc on les a appelés les Melkites, c'était d'abord un péjoratif, et puis ça leur est resté. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont historiques, hein, ce n'est pas des inventions. Voilà. Et donc pour conclure ce passage-là, avant de donner une idée générale, je vous donnerai une idée que j'ai trouvée chez justement le livre de Ratzinger que je vous ai cité, lequel est devenu entre-temps Benoît XVI, un livre très intéressant, justement le dialogue avec les Anglicans, où il dit, mais voyez, on nous dit, bon, il y a l'Église particulière. Ce qui compte, c'est l'Église qui est à Paris, ou l'église qui est dans ma paroisse, c'est l'église qui est là, qui se célèbre elle-même, qui se vérifie, qui se machine, etc. Bon. Et puis Rome est loin. Les Suisses disent, il y a les montagnes entre nous et Rome. D'autres ont des fleuves, mais Rome est loin. On dit, oui, le pape a décidé un truc. Ah ben, le pape, il est là-bas, mais ici, chez nous, c'est l'évêque, point la ligne. Bon. Il y a souvent une tendance comme ça, un peu, où on met tellement en exergue l'église particulière, qu'il y a un déséquilibre qui s'introduit. Et alors, on dit en particulier que dans le premier millénaire, il y avait ce qu'on appelle la conciliarité. Les Russes appellent la subordnos, c'est-à-dire le fait, voilà, qu'il y a un ensemble, y a des évêques qui se réunissent, c'est que chez les orientaux, les Russes, les Grecs et d'autres, parce qu'à part que les Russes et les Grecs comme orientaux, c'est de plus important, du moins pour les Byzantins. Il y a c'est le synode qui est le groupement des évêques qui est le plus important, presque que le patriarche. Bon. Et alors on dit, ben, au début ça fonctionnait comme ça, l'Église était au fond collégiale, il y avait la conciliarité. Et en fait, si vous étudiez un peu l'histoire, et Ratzinger s'appuie sur ses études, il dit, mais la conciliarité, c'était l'empereur. C'est-à-dire, les conciles ne se réunissaient pas tout seuls, c'est l'empereur qui pouvait convoquer les conciles. Alors évidemment, le pape était très important, si le pape n'était pas là, vous ne ratifiez pas, ça ne marchait pas, ce n'était pas œcuménique. Mais concrètement, pour se déplacer, pour mettre de l'ordre, pour faire charger la troupe lorsqu'ils tiraient trop la barbe, comme au brigandage des fesses et tout, parce que c'était pas triste. Hein. C'était pas les éditoriaux du Monde ou de Libé, commentant. Libé n'existait pas au moment du Concile, enfin c'était le Monde et la Croix, qui commentaient de façon plus ou moins objective les dernières réunions du Concile Vatican II. Mais là, c'était carrément physique. Hein. On s'arrachait la barbe, on se battait, on occupait les églises, etc. Donc c'était utile quand même d'avoir quelques bons gardiens impériaux pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Et puis même après, c'était une exigence des évêques catholiques, c'était d'expulser les hérétiques de leurs églises pour pouvoir récupérer les églises. Et habituellement, les empereurs, du moins à partir du moment où ils ont choisi l'orthodoxie, appliquaient ça. Et ça a été possible comme ça pendant 1000 ans, parce qu'il y avait la puissance impériale. Mais à partir du moment où la puissance impériale s'effondrait, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, il y a une confusion entre la condition historique, qui était la condition du premier millénaire, et puis l'essence des choses. Par exemple, les Grecs nous disent, l'évêque de Rome, c'est important parce que c'est la capitale de l'Empire, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on lui faisait un peu des gousis-gousis, un peu plus somptueux, si vous voulez. Hein. Mais maintenant que Constantin est venu à Byzance, c'est nous la deuxième Rome, les gars. Donc le patriarche de Constantinople, c'est lui le patriarche œcuménique, un terme qui n'a jamais été totalement reconnu par l'Église catholique. Enfin, on l'appelle comme ça par politesse. Hein. Mais si vous êtes un descendant d'une fausse dynastie française ou que sais-je, le Saint-Siège vous mettra votre excellence et tout. C'est ce qu'on appelle les usages diplomatiques. Hein. Mais bon, peut-être un peu plus pour là, mais enfin, c'est la œcuménicité du patriarcat de Constantinople n'est même pas reconnue par les Coptes ou par les Arméniens, par exemple. Bon. Mais en fait, tu vois, il était très important, donc on dit c'est lui. Alors voilà, de 350 à 1400 et quelques, 50 et quelques, je ne me souviens plus de la chute de Constantinople. Mais donc, pendant 1000 ans, c'était, voilà, alors après, qu'est-ce qu'on fait, les gars, hein, quand il y a Mahomet II qui arrive et qui écrase tout, hein, qui provoque presque, d'une certaine façon, le caractère définitif du schisme, parce qu'on avait fait deux unions, on était vraiment, théologiquement, on était dans l'union avec Florence et Lyon. Hein. Mais il y a une telle pression, si vous voulez, ils ont coupé complètement. Alors après, où est-ce qu'il est, le œcuménique? Alors du coup, les Russes, 150 ans après, disent, la Russe, c'est nous, les gars. Troisième Rome, c'est Kiev, et après, c'est Moscou. Bon. Mais alors maintenant, depuis... Moi j'ai une famille où, chez nous, il y a un portrait dédicacé du dernier tsar, parce que ma tante était épouse d'un des derniers ambassadeurs à Saint-Pétersbourg. Enfin, je vous raconte ça, c'est assez émouvant, parce que j'ai lu son compte-rendu des événements, puis après, j'ai lu le récit officiel de mon oncle. C'est un peu différent. On voit l'œil de la femme, les confidences de l'impératrice. Mais c'est assez émouvant, parce que c'est très similaire à ce qui nous arrivait ici 150 ans avant. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et on voit que vraiment l'empereur, dans une cérémonie liturgique, le tsar, c'était l'autocrate. C'est pour ça qu'il est tombé, parce qu'il était persuadé que vraiment il était autocrate, béni de Dieu. Il était un personnage ecclésiastique au plein sens du terme. Alors maintenant, depuis octobre 1917, vous savez pas comment vous comptez en calendrier, enfin depuis 1917, il est où la troisième Rome? C'est quoi? C'est New York? C'est Johannesburg? C'est Pékin? C'est là? C'est Londres avec la bourse? Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Non, il y a un vrai problème, vous voyez. Si on lit trop l'universalité de l'Église à une structure historique et temporelle, on arrive à une impasse. Et la considérité de l'Église, en fait, c'est son universalité. Et son universalité repose sur une base théologique qui est la communion des évêques entre eux, qui est vérifiée par l'appui sur l'un d'entre eux qui se prétend primat. Et si on n'approfondit pas ça, on arrive à une impasse totale. C'est dehors à ça qu'arrivent certaines églises orientales qui se disent, mais il y a un problème. Ça fait maintenant 100, enfin depuis un bon bout de temps, 100 ou 200 ans, qui veulent faire un concile de l'orthodoxie, mais ils n'y arrivent pas. Donc certains commencent à se dire, mais il y a quand même un rôle important de l'évêque de Rome. Oui. Donc voyez, la conciliarité de l'église, il faut bien la mettre à sa place. C'est quelque chose qui se réalise dans la communion avec l'un qui représente et qui actualise cette considérité qui est l'évêque de Rome. Donc, la conclusion sur votre papier, c'est le petit C. Hein. Bon, on a vu qu'il y a des gens pendant 3 siècles qui ont exercé un primat sur toute l'Église, qui étaient les évêques de Rome. Toute l'Église, pendant 1000 ans, a reconnu par des actes très importants ce primat. Alors évidemment, c'est important de savoir que le primat peut s'exercer de façon variée. C'est ce que Jean-Paul II a dit dans l'encyclique Utu Nunc Sint, hein, le primat c'est une vérité de foi, le mode d'exercice du primat peut varier, le pape peut intervenir plus ou moins. Voilà, ça c'est vrai. Mais pendant 1000 ans, ce primat a été reconnu dans toute l'Église. Voilà. Alors c'est très simple. Il y a quelqu'un qui se réclame d'être successeur de Pierre dans le primat. C'est l'évêque de Rome. Et ailleurs, il n'y a personne. Ça, c'est même pas à démontrer, parce qu'il n'y a personne. Personne n'a jamais dit, je suis le successeur de Pierre, et j'ai une juridiction sur l'Église universelle. Aucun siège apostolique n'a dit ça. Donc, ou bien c'est l'évêque de Rome, ou bien c'est personne. Et donc, si on admet ce que nous avons dit avant, à savoir que vraiment, le Christ a donné le primat à Pierre à ses successeurs, eh bien, ce primat se trouve aujourd'hui comme sujet dans l'évêque de Rome. Oui, même indépendamment de la démonstration, qui est historique, je vais peut-être dire juste un mot, si vous n'êtes pas trop endormi, sur le séjour de Pierre à Rome et son épiscopat, mais même indépendamment de ça, qui maintenant historiquement devient de plus en plus certain, il se trouve que, et c'est vraiment une voie de prescription, c'est la voie de Soloviev d'une certaine façon, oui. Il y a quelqu'un qui réclame le primat, un endroit, il n'y a personne qui le réclame en dehors, or il faut un primat d'après les promesses du Christ, donc c'est l'évêque de Rome. Alors ce n'est pas un hasard, parce que de fait, on établit, là je n'ai pas mis sur le papier, mais de façon tout à fait maintenant certaine, disons de plus en plus avec les fouilles ordonnées par Pie XII et Paul VI, juste sous la confession de la Basilique Vaticane, le séjour et le martyr de Pierre et Paul à Rome est historiquement absolument attesté. Et leur épiscopat est également une certitude. On a des traces innombrables, aussi bien dans les témoignages anciens que dans les monuments archéologiques, qui montrent que Pierre et Paul sont affirmés comme les fondateurs de l'Église et considérés comme ceux qui donnaient des ordres dans l'Église, spécialement Pierre. Par exemple, Saint Ignace écrit aux Romains, « Je ne vous donnerai pas des ordres comme le faisaient Pierre et Paul. » Donc donner des ordres, c'est être évêque. Parce que moi, je suis enfermé dans les fers, eux, ils étaient apôtres et ils dirigeaient votre Église. Mais... Donc il y a des témoignages directs et indirects, des représentations dans les catacombes, représentant Pierre enseignant ou Pierre sur sa chair, ou les différents lieux où s'est trouvé très probablement les restes mortels de Saint-Pierre, dans un certain endroit des catacombes avant de revenir dans la basilique vaticane, qui sont vraiment un faisceau, si vous voulez, historique absolument convaincant sur le séjour de Pierre à Rome et sur son épiscopat. Et ce qui est assez curieux, c'est que justement les fouilles, enfin, malheureusement, j'ai pas eu le temps de fouiller ça pour ce soir parce qu'il y avait trop de choses. Les fouilles, sous Saint-Pierre, arrivent vraiment à un endroit où il y a des os, enfin, entourés de pourpre, hein, ce qui est quand même... La pourpre, c'est quand même... au premier siècle, c'était vraiment un signe impérial. Hein, donc, pour honorer ces restes. Et puis, une inscription, Eni Petros, ici, et Pierre. Il y a une quasi-certitude historique que le corps de Pierre a reposé là. Et maintenant, bientôt, avec les appareils, on va voir que, pour la basilique de Saint-Paul hors les murs, parce que maintenant, on a les appareils, on n'est même plus obligé de rentrer dedans. Quoi. Donc, on a commencé à faire des fouilles à Saint-Paul hors les murs, parce qu'on se dit, mais pourquoi elle est là, cette basilique, c'est loin par rapport à la route et tout. La tradition disait qu'on lui a coupé la tête là, Saint Paul. Et je ne veux pas faire un pari stupide, mais c'est pas impossible qu'on arrive justement à le même type de certitude que le martyr de Paul a eu là. Donc, il y a des textes extrêmement anciens qui attestent d'une fête de Saint Pierre et Saint Paul au calende de juillet, c'est-à-dire le 29 juin, le même jour, et une chaire de Saint Pierre le 22 février. Des textes extrêmement anciens établis par des gens qui étaient spécialistes de ce genre de choses et qui donc ne peuvent s'appuyer que sur une réalité dans les faits, si vous voulez. Il y a un auteur donc qui dit ceci sur les adversaires de la papauté. Au 2e et 3e siècle, il y avait des tas de gens qui étaient ennemis de la papauté. Ils connaissaient l'histoire. Ils connaissaient mieux l'histoire de Saint-Pierre et de l'origine de l'Église romaine que nous. Et leur intérêt était justement de la connaître à fond. S'ils l'avaient pu, ils n'auraient pas manqué de frapper Rome au cœur en lui enlevant son apôtre. Or, ces types-là ne contestaient pas que Pierre était venu à Rome, contestait les prétentions de ses successeurs. Donc, si vous voulez, la venue et l'épiscopat romain de Pierre sont vraiment des certitudes extrêmement intéressantes. Et je dirais, bon, je vais terminer quand même là-dessus, pour être gentil à vous, comme disent les Anglais. Vous voyez, il y a un type qui a fait un film là sur les moines de Tibérine. Et il a dit, et dans une interview privée, ou dans une interview, bon, il a dit qu'il ne voyait pas ce que le Vatican avait à voir avec l'Évangile. Et je trouve que c'est assez bon comme question. Bon, ma réponse n'est pas garantie à 100%. Mais je crois que ce que le Vatican a à voir avec l'Évangile, c'est qu'il peut poser la question librement. Enfin, moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que le catholicisme, s'il se maintient conforme à l'ordre naturel et conforme au bon sens surnaturel, dans une structure suivie. Si vous le mettez en dehors, ça disjoint. D'ailleurs, l'histoire est là pour le prouver. Actuellement, on parle même de fusion entre différentes communautés ecclésiales protestantes ici en France, alors qu'elles se battaient à fond sur la prédestination parce qu'il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. Si, il y a des gens, je ne veux pas être vexant pour les protestants, mais disons, ça s'est tellement effondré au point de vue naturel et au point de vue de l'éloignement des grands dogmes christologiques qu'à part les groupes qui, dedans, se considèrent comme les intégristes du groupe, si vous voulez, c'est vraiment maintenant... on arrive à quelque chose qui se dilue par rapport à sa propre racine. On voit chez les anglicans, par exemple. Et donc, je crois que la question de... C'est Michael Nonsdale, je crois, qui a posé cette question. Quel est le rapport entre l'Évangile et le Vatican? Ben, c'est que si vous allez au Vatican et que vous obtenez une permission, vous pourrez consulter le Codex Vaticanus, qui est le plus grand texte suivi de l'Évangile. Et si vous savez déchiffrer, avec l'épigraphie, tout ça, vous lirez... ce que vous trouvez dans votre Bible que vous achetez dans là. Et c'est le seul endroit où vous pouvez y aller, à part Sainte-Catherine, enfin, c'est même plus là, Sainte-Catherine du Sinaï, le Sinaïticus, qui est à Londres, je crois, actuellement. Donc le Vatican nous sert à ça. Il nous sert à vérifier que ce que nous faisons est raisonnable. Dans ma période agnostique, j'ai été très frappé par ça. Que même en rejetant le caractère surnaturel de l'affirmation catholique, son caractère, si vous voulez, de stabilité et de libération, moi, me paraît quelque chose de très soutenable, de très probable et même de quasiment certain. Enfin, moi, ça m'a toujours beaucoup ému. Et je pense que c'est peut-être une chose aussi qu'il faut mettre en avant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un ébranlement, il y a un désir. Donc, n'hésitez pas, peut-être, à... De toute façon, vous avez le Saint-Esprit à la confirmation pour savoir ce qu'il faut dire à qui, à quel moment. Mais je pense que ça, c'est une chose qui peut... Voilà. Donc, la filiation, vous voyez, des évêques, l'Incla Clément, etc., jusqu'à Benoît... Hein, Benedictus, c'est pas Maledictus. Hein, y a un crétin qui a écrit un livre, Maledictus XVI. Hein. Bon, ça maintient un peu l'ambiance. C'est vrai que c'est dans l'Évangile, ça aussi. Hein. Pas non plus trop se scandaliser. Hein, des merdiques et des foutraques, il y en aura jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist. Quoi. Mais il ne faut pas s'affoler. Le mal et le bien sont mélangés. Et le Vatican, il a plein de défauts, le Vatican, mais quand même. Hein. Supprimer, c'est ce qu'a dit un jour Ratzinger. Supprime le catholicisme et tu vas voir. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais c'est bon. Alors je termine et je suis à votre disposition pour les questions. Cyril, est-ce que vous avez une question ? Oui, mademoiselle. Ah, la possibilité d'une vacance ou d'une usurpation. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'écarter la possibilité d'une vacance ou d'une usurpation? Pas totalement. C'est qu'il peut, il y a des vacances, il y a certaines vacances qui ont duré 2 ans et demi. Bon. Et voilà, bon, il y a des cas. Il se peut que le siège romain, nous actuellement nous lisons un livre sur la querelle entre Grégoire VII et Henri d'Allemagne, donc la querelle des investitures, et il y avait quelquefois plusieurs papes, et quelquefois on n'arrivait pas, enfin bon, et le siècle d'avant, d'ailleurs le pape était souvent nommé par, c'était des papes qui avaient 13 ou 14 ans, qui étaient nommés par des bons, donc c'était assez difficile, mais le problème je crois c'est sur la durée, vous voyez, je crois que c'est la phrase de... Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, jointe à l'autre phrase, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps, empêche que la vacance soit au-delà des capacités de résistance des hommes et d'une société. Et ça me semble être la génération humaine. Oui. Le grand chiffre d'Occident, qui est quand même extrêmement impressionnant, on dit, bon, c'est les papes de Rome qui étaient les vrais papes. D'accord, mais enfin, il y avait Sainte-Catherine de Sienne du côté de Rome, Saint-Vincent Ferrier, le patron, du côté d'Avignon. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il s'est gouré, quoi. Mais donc, je trouve sympathique qu'il y ait un saint qui se gourre. Et après, il l'a reconnu. Du moins, il est monté en chaire. Il a très belle aisance, hein, il est monté en chaire. Et il a dit, le pape, que j'ai toujours pensé être le vrai pape, est devenu schismatique parce qu'il refuse l'unité. Donc, c'est montre qu'un très grand saint a pu penser qu'un pape pouvait tomber dans le schisme. Ce que, personnellement, je pense aussi. Enfin, c'est un point à discuter. Il ne faut pas non plus trop, si vous voulez, diviniser. Si vous voulez, le pape n'est pas l'épiphanie de Dieu en tant que tel. Mais cependant, ça ne peut pas durer. Le grand schisme a duré 38 ans. Alors, je sais qu'il y a des thèses actuellement qui disent qu'il y a une vacance de la papauté depuis le 7 décembre 65 ou depuis la mort de Pie XII. Eh bien, ça ne va pas. Parce que s'il y a une vacance, et un argument extérieur, d'abord, il y a des arguments intérieurs, parce qu'on peut démolir les preuves, il faudrait prouver qu'il y a une contradiction formelle dans la doctrine entre maintenant et avant 58. Or, cette preuve n'est pas faite. Moi, je pensais l'avoir faite, et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Bon. Donc, je suis assez bien placé pour vous en parler. Et elle n'est pas faite. Et alors, en plus, même sans rentrer là-dedans, il y a le fait que s'il y a une vacance, on s'occupe de changer la vacance. Je vous donne un exemple perso. Moi, je pensais qu'il y avait une suspension d'autorité. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est contradictoire. Bon. Et donc, j'ai rédigé des trucs, on a rédigé à quelques-uns des trucs assez savants, qui ont été considérés comme sérieux par des gens très élevés, qui sont très élevés actuellement dans l'Église. Et on s'est dit, voilà, on va porter ça à des évêques, ceux qui ont réagi un peu au concile. Et comme on a raison, ils vont reconnaître qu'il y a un problème et ils vont en parler à l'élu du collège apostolique et il va changer son erreur. On était assez naïfs, quoi. Oui. Bon, alors, du coup, c'est nous qui avons changé la nôtre. Enfin, ça a été utile. En fait, on n'a trouvé aucun évêque qui affirmait qu'il y avait une rupture complète, sauf deux qui commençaient un peu à perdre les pédales, à mon avis. Bon, mais et en plus, maintenant, le problème, il est réglé parce qu'il n'y a aucun dans l'Église, si vous voulez, l'Église est quand même composée de gens normaux, si vous voulez. Je ne dis pas que les évacantistes sont tous anormaux, il y a des types très sympas, j'en ai des amis là-dedans. Mais je veux dire, attendez, quand même, s'il y a une vacance, il y a des évêques qui s'occupent d'arrêter la vacance. C'est pour ça que j'ai fait, moi, cette lettre à quelques évêques, je l'ai traduit en latin, je l'ai fait traduire en allemand, en anglais, en espagnol. Et envoyé à 2000 évêques, donc vous voyez que c'est du boulot. Hein. Donc si on dit ça, soyons cohérents. Allons voir les évêques et disons, allez mettre en garde Benoît XVI, il y a une erreur qui retarde l'erreur. Qu'est-ce qui fait ça? Personne. Sauf des bulletins par internet ou machin destinés à 200 personnes. C'est pas sérieux. Donc, s'il y a une vacance, l'Église réagit contre la vacance. Un exemple typique, c'est Savonarole. Savonarole, bon, c'est pas un père de l'Église. Mais il a un côté sympa aussi. Bon, un petit peu excessif quand même sur les bords. Et Savonarole dit, attendez, Alexandre XVI est un salaud, il n'est pas chrétien, je vais le prouver. J'ai convoqué un concile, je vais le prouver. Ben, il a dit ça. Il n'a pas dit, envoyez-moi du fric sur mon CCP, moi je suis la vraie Église. Et, non, mais attendez, il faut savoir ce qu'on veut, parce que c'est pas tellement d'être dans l'erreur qui est grave, c'est d'être incohérent. À mon avis. Si tu dis il y a une vacance du siège, prouve-le aux évêques et les évêques vont le prouver au pape et on va le changer. C'est impossible que l'Église reste plus de 40 ans dans une vacance du siège apostolique. D'ailleurs, ça a été en quelque sorte défini par Vatican I qui a dit, dans la promesse du Christ à Pierre, il est promis que Pierre aurait perpetuos successores, des successeurs perpétuels. Donc même si c'est 5 ans, 10 ans, 17 ans, attendez, 38 ans, c'est au-delà des forces humaines. D'ailleurs, il n'y a plus un seul évêque valide. Dans la position, c'est des vacantes strictes. Les sacres valides s'arrêtent en 68. Alors moi, j'ai été ordonné par un évêque d'un séminaire. Pour eux, je suis prêtre. Mais certains de mes jeunes pères ne le sont pas. Parce qu'ils ont été ordonnés par des évêques moins sûrs, etc. Non, mais je suis un peu, mais je les aime bien. C'est assez difficile de discuter avec eux parce que, si vous voulez, je pense que si on n'est pas cohérent, on tombe dans l'hérésie. Et moi, je pense qu'affirmer une disparition de la hiérarchie qui dépasse la durée du grand schisme, parce que moi, je ne suis pas absolument certain. On est tranché la question du grand schisme. Quel est Rome, c'est Avignon. Bon. En tout cas, on s'est tous mis d'accord à Constance. Allez, on dépose tous les autres, on les met en prison. Saint-Vincent Ferrier retire le pouvoir temporel qui soutenait le mauvais pape et tout. Et hop, et tout le monde se met d'accord. Voilà. 38 ans. Donc voilà, je pense que c'est... Parce que si vous voulez, Dieu ne peut pas permettre qu'une épreuve détruise. Et d'après ces gens-là, d'ailleurs maintenant, ce que je vois, c'est qu'ils disent que c'est la fin des temps. C'est souvent la sortie un peu. C'est dire c'est la fin des temps, c'est les derniers temps, donc il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'évêque, il n'y a plus de prêtre, il y a moi. Il y a vous. Non, je suis un petit peu méchant, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses très troublantes. Hein. Et c'est vrai que je pense que dans le Concile, et surtout dans pas mal de textes après, il y aura des choses à préciser, dans le sens de l'herméneutique de continuité, de façon à montrer comment s'inscrit vraiment dans l'herméneutique de continuité pour la ligne principale, et que les considérants sont quelquefois discutables, voire carrément quelquefois mauvais. mais c'est des conciles œcuméniques et c'est des textes pontificaux. Donc il y a un travail énorme à faire qui est commencé depuis par la Congrégation de la foi, par le catéchisme de l'Église catholique, dont certains textes, je suis bien placé pour savoir qu'ils vont dans le bon sens, parce que sur la liberté religieuse en particulier, qui ont tenu compte d'objections que nous on a fait, moi en particulier, pour vous dire que ça avance quand même, quoi, c'est pas. Et donc, etc. Donc ça avance, mais et Benoît XVI prépare peut-être Sylvie à prier qu'il vive comme Léon XIII, 93 ans. Mais il prépare des choses. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais comme personne, j'aime bien les sédévacantistes. Si vous en êtes ou si vous en voyez, ne prenez pas ça comme une attaque personnelle. Oui ?
Justement, à l'époque où vous teniez cette position, est-ce qu'on peut dire que vous aviez, enfin, vous autres, une vision biaisée justement de l'autorité suprême de l'Église de Rome sur le plan doctrinal ? À savoir qu'aujourd'hui, les exercices qu'on s'en fait sont utiles, mais à l'époque, peut-être, ils n'étaient pas tout à fait, faits. Donc, quelque part, finalement, il y avait discussion et est-ce que
on a été trop vite.
Oui, peut-être.
Oui. Moi, je pensais, si vous voulez, qu'il y avait suspension d'autorité à cause du texte sur la liberté religieuse. Et on a fait un travail énorme qui nous a pris 3 ans dans les pères de l'Église, dans le magistère, et qui a contribué aussi à faire évoluer les choses, puisque si vous prenez les numéros du catéchisme de l'Église catholique, cette question, il y a des choses que c'est nous qui avons fait injecter, quoi. En particulier la référence à Pie XI et à Pie IX, hein, donc c'est quand même pas mal. Mais moi, je pensais, quand on a changé de position en 88, j'étais très étonné que Jean-Paul II et Ratzinger, évidemment, étaient très contents. Et ils nous ont dit, on trouvait que notre travail était intéressant. Enfin, c'est un truc un peu intime, mais bon, c'est quand même émouvant, si vous voulez. Moi, je me disais, bon, ils vont dire, c'est trop tradit, c'est trop Christ-Roi, machin bidule, quoi. Et au contraire, on a eu des félicitations, quoi. Donc ça fait quand même du bien où ça passe, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait une vision baisée. C'est-à-dire que surtout, on était énervés, du coup, aussi bien du côté progressiste, parce que les progressistes profitent du flou. Moi, je souhaite que Benoît XVI fasse des précisions. Alors, je ne sais pas si les tradis vont les admettre, enfin, les tradis pur jus, pur malte, hein, si vous voulez. Bon. Je ne sais pas s'ils vont les admettre, du moins une partie d'entre eux les admettra. Mais en tout cas, je suis sûr que les progressistes vont être furieux. Rien que pour ça, je serais assez content qu'ils le fassent. Parce qu'ils abusent, si vous voulez, ils parlent du concile, ils ne l'ont jamais lu. Et moi, je le connais mieux qu'eux, je ne connais pas beaucoup le concile. Mais... Donc, si vous voulez, nous, on a essayé de vraiment approfondir ce point. Et on était énervé du fait que tout le monde s'en fichait. On a cherché les actes synodalia, par exemple, du Concile, en 80, donc on a commencé en 79-80. Même à Solem, ils n'y étaient pas. Bon, après, il y a eu une réduction sur le prix, donc Solem les a acquis, nous aussi. Mais et donc, on les a eu. C'est là où il y a toutes les discussions de tous les mots par mot, tout ce qu'ont dit les conciliaires, tout ce qu'ont répondu les évêques et tout. Et c'est grâce à ces actes synodalia qu'on a trouvé le vrai chemin. Mais donc, vous voyez, il faut du temps, c'est vrai. Pour... Mais je veux dire que la leçon que je tire de ça, c'est que la vérité est diplomatique, elle est payante. On tarde trop, moi je trouve qu'on tarde trop, à affirmer les choses clairement. Enfin, du moins, c'est peut-être un peu mon tempérament, mais je crois que c'est aussi un peu la nature des choses. Parce que je connais des gens qui sont écartés, et même quelquefois quand vous baladez en stop ou dans le métro ou ailleurs, nous on a des discussions avec des gens qui ont cessé de pratiquer depuis 20, 30, 40 ans. On nous a changé de religion. Ils ont tort, d'accord, mais attendez. Quelquefois, quand vous rentrez dans leur paroisse, vous me dites qu'ils ont raison, quoi. Non ? Enfin, je ne veux pas être méchant aussi, je veux être un peu méchant, quoi. Parce que je trouve qu'il ne faut pas être mou, les mous sont épuisants, quoi. Donc, on avait une vision. C'est-à-dire qu'on avait, durci, si vous voulez, le sens des textes de Pie IX et l'interprétation des textes de Vatican II. Et du coup, on est devenu, on espère, un peu plus prudent, quoi. Et ça, ce qui nous a sauvés, c'est justement qu'on a été contactés. On a envoyé cette lettre quand même à 2000 évêques. Moi, j'ai vu 30 évêques ou cardinaux à peu près. Et on a envoyé ça à des tas de théologiens. C'est grâce à un théologien qu'on a été ensuite mis sur la bonne route, quoi. Donc la sobornos, si vous voulez, la conciliarité entre nous a fonctionné, quoi. Alors maintenant, ça va plus vite avec Internet. Mais c'est plus superficiel, hein, Cyril.
C'est vrai.
Un journaliste qui parle. Qui écrit. Attendez, peut-être une quand même. Si.
Oui. Vous parlez de Soloviev, mais Babayev, c'est quoi sa position par rapport à ses œuvres?
Je ne connais pas Babayev.
Je connais ses descendants, des chrétiens de l'histoire.
Oui, mais Babayev est plus anti-occidental, je crois. Oui. Soloviev faisait partie de ces Russes qui se sont vraiment rapprochés de de la pensée catholique, justement, en approfondissant le sens même des paroles de l'Évangile. Mais Berdaïev, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est intéressant de voir qu'à certaines époques clés, vous avez tout un mouvement chez les Russes ou chez les Anglicans, et je crois qu'il peut recommencer au moins chez les Anglicans, chez certains Grecs, et aussi dans les pays arabes. Je pense que le mouvement, s'il y a plus de liberté dans les pays d'État ou de culture islamique, ce que me disent mes amis convertis de l'islam, il y aura une poussée considérable vers le christianisme. Il y a des moments qu'il faut... Donc à nous, si vous voulez, d'aller vers eux, et à nous de nous préoccuper, à nous les catholiques, de dire, écoutez, les musulmans, vous êtes bienvenus chez nous, quoi. Pas leur dire, mais garde ton prophète, tu vas être sauvé avec ton prophète, quoi. Parce que c'est exaspérant, des discours pareils, quoi. Et malheureusement, c'est ce qu'on entend souvent, et c'est pour ça que c'est un vrai problème, parce que en islam, ce qui est très important, c'est la force spirituelle, la baraka. Et donc, s'ils voient des chrétiens qui disent, attends, ta religion est fausse et la mienne est vraie, bon, évidemment, vous prenez des risques, ça, c'est vrai. Mais il faut les prendre. Non, mais attendez, mais ça sert à quoi d'être chrétien si on... Et justement, ceux d'entre eux qui s'interrogent se disent, mais attends, lui, moi je vois des gens, j'en parlais à l'un d'entre vous, je suis quelquefois abordé par des gens qui ont quitté le christianisme pour aller vers le... Enfin, ce qui... Ils étaient nés là-dedans, ils ne connaissaient pas beaucoup, pour aller vers l'islam, parce que l'islam affirme les choses fortement. Un peu trop, je reconnais. Mais d'accord, mais nous, les chrétiens, c'est un peu mou. Hein. Et donc, en particulier, c'est, je pense qu'il faut être par rapport aux orthodoxes et par rapport aux musulmans, aux culturellement musulmans. Donc, il faut vraiment dire, écoutez, voilà, nous pensons, par des textes révélés, que la raison et la révélation indiquent la voie du salut dans le christianisme et dans l'Église de Pierre. Ah, c'est intéressant, et que sur quoi tu t'appuies, ça. Et il ne faut pas dire, attendez, tout le monde se sauve partout, t'es de bonne foi, t'es gentil, etc. Peut-être qu'en effet, il y a des gens qui se sauvent, mais souvent, vous ne savez pas lesquels. C'est ça qui est dramatique. Hein. Il y a une apostasie, et une apostasie des catholiques et des prêtres sur la question de l'ignorance invincible. Il y a dit, ben, les gens... Moi, je connais un kabyle, qui est maintenant un chrétien. Quand il s'est converti, il a été voir le père blanc de son coin. Un pays du Maghreb. Il lui a expliqué sa conversion. Et le père blanc l'a regardé avec des gros yeux. Il dit, tu n'as pas honte d'avoir quitté la religion de tes pères. Donc, écoutez, il y a un problème. Alors, donc, nous soyons, donc, tâchons d'être intelligemment apostoliques.
Oui, justement, Philippe. Par rapport aux orthodoxes, est-ce que vous pensez que, pas le schisme le grand schisme d'Occident, mais plutôt avant ça, les papes la papauté d'Avignon, est-ce que ça pourrait être un argument objecté par les orthodoxes, ou est-ce que d'une certaine manière ça renforce la notion de papauté en la séparant du lien trop immédiat avec...
Oui, ça, je crois que le schisme d'Avignon renforce la notion de primat pétrinien. Il y a un primat qui a été donné à Pierre, à ses successeurs, même s'il ne réside pas à Rome. Il y a une liaison établie par Pierre. Pierre est venu à Rome. Et Pierre étant à Rome, c'est là souvent l'hypothèse, enfin la pensée la plus sûre des théologiens, a uni son primat avec l'épiscopat romain. Donc maintenant, personne ne peut le séparer. Mais il peut résider ailleurs, éventuellement. Et il peut exercer ça d'une autre façon. Donc je crois que ça renforce quand même plutôt. Mais c'est une difficulté. Dans l'apologétique, il faut à la fois être convaincu et humble. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître nos propres... Il y a eu des erreurs, de l'arrogance des latins dans le grand schisme qui a joué un rôle. Moi, je suis bien placé pour savoir que dans un schisme, tous les torts ne sont pas du même côté, quoi. C'est ce que je dis quand je rencontre des prélats ou des cardinaux. Parce que matériellement, c'est oui, j'étais schismatique, si vous voulez. Mais tous les torts ne sont pas du même côté. Donc nous, il faut dire, bon, on a des torts. Mais ce qui compte, je crois, c'est la durée. C'est comme l'interprétation de l'écriture. Est-ce que les grandes lignes nous disent qu'il y a une église chrétienne, il y a une église apostolique, il y a une église pétrinienne? Oui. Alors après, il y a en effet beaucoup de... Le rayonnement des vérités, c'est ce que dit Cardinal Journet. On va le voir dans les trois prochaines conférences, hein, donc qui seront un peu des confirmations, un peu plus spectaculaires, parce que c'est plutôt sur la propagation, la sainteté, les bienfaits de l'Église catholique. Donc, les notes de l'Église sont dans l'essence de l'Église, mais elles rayonnent plus ou moins en fonction de la sainteté des chrétiens. Il y a des moments où ça ne rayonne pas des masses, quoi, semble-t-il, quoi. Mais ça rayonne quand même. Moi, en vieillissant, je m'aperçois que ce qui est intéressant, c'est que c'est la vertu. Parce que le vice, c'est partout. Le vice, enfin, surtout que moi, je suis un confesseur quand même. Donc. Et puis en plus, je suis supérieur de communauté, fondateur, donc je connais des tas de choses que vous ne connaîtrez jamais pour votre plus grand bien. Et alors, le mal est beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Le mal est horrible. Mais c'est rassurant, oui, en quelque sorte, parce que le bien est plus que le mal, quoi. Et donc, je pense que nous, on a beaucoup à s'appuyer là-dessus dans notre apostolat. Et moi, ce qui me frappe de plus en plus pour l'Église chrétienne et catholique, c'est quand même la dose de bien qu'elle peut véhiculer, même aujourd'hui. Enfin, c'est très, très impressionnant. Et justement, je crois que la purification du carême, là, on va monter, c'est peut-être de voir l'être, de voir le bien, quoi. Chez les gens, pas voir ce qui ne va pas, leurs péchés, leurs défauts, mais de voir qu'il rayonne quelque chose. Enfin, les convertis, ils sentent beaucoup, ça, vous voyez, quand vous arrivez de l'athéisme, enfin, des régions de la dissemblance, de la mort et tout, et que vous arrivez dans un endroit où les gens s'aiment entre eux, savent qu'ils vont pour une éternité de bonheur, se reçoivent mutuellement, se font les miséricordes. C'est incroyable, un truc pareil. C'est incroyable. Oui, Joseph. Luther. Ben écoutez, j'ai un peu de mal. Parce que je suis pas peut-être très objectif. Moi. Même comme agnostique, j'ai toujours eu un problème avec les protestants parce que je trouve que ça va pas. Quoi. Mais si vous voulez, Luther est quand même très intéressant parce que je pense que dans les fondateurs de la modernité, au sens où elle est discutable, il n'y a pas du mal dans la modernité. Hein. Moi, j'aime bien la science, l'astrophysique, tout ça. Et encore d'autres choses, sauf les portables quand ils sonnent, quand il faut pas. Mais ceci dit, je pense que Luther, vous savez qu'avec Maritain, a écrit un livre, justement, où il y a Luther, il y a Descartes et il y a Rousseau. Et je pense que c'est des gens intéressants, parce qu'ils sont quand même les pères de beaucoup de tendances culturelles actuelles qui ne seront pas éternelles, quand même, hein, mais qui donnent un peu le tissu de la modernité. Et donc, je crois que Luther, c'est un scrupuleux, si vous voulez, qui est resté noyé dans son angoisse, quoi. Il a fait une erreur, à mon avis, en devenant religieux. Et parce qu'il s'est mis dans un truc. Et après, il a justifié, si vous voulez, son incapacité à porter les obligations qu'il avait prises par des erreurs, quoi. Donc c'est un cas très intéressant parce que c'est un génie, semble-t-il. En tout cas, l'influence qu'il a exercée. Mais c'est un génie qui a quelque chose un peu comme Descartes ou... J'allais pas dire de diabolique, mais de... Si vous voulez, on retourne sur le moi. Est-ce que je vais être sauvé? Eh bien, arrête de te poser la question tout le temps. C'est bien de... D'accord. Mais regarde Dieu, quoi. Si tu es... Et pour lui, si vous voulez, il a vraiment réussi à nous démolir un peu tout, parce que je pense qu'il y a un fossé vraiment entre nous et Luther, entre nous et les orthodoxes, d'un côté. Tous ceux qui croient qu'il y a une grâce sanctifiante, et ceux qui pensent que la grâce est une imputation juridique comme Luther. Et je crois qu'il y a un fossé qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on est quand même assez proche des églises orientales, même dissidentes. Parce qu'on pense que la grâce est une réalité physique, que je suis divinisé par la grâce. Quand je suis dans le métro, je bombarde tous les gens par mon état de grâce, si vous voulez. Mais c'est physique, hein. Ils y peuvent venir, les gars. Ils savent pas ce qu'ils peuvent leur dire. Tandis que le protestant, il dit, je suis complètement merdique. Je suis d'accord, on va arrêter de regarder ça. Mais alors, je reste dans mon péché. Dieu ne peut pas m'enlever le péché. C'est ça qui est horrible, ça. Descartes appelle ça un pélagianisme de désespoir. Mais avec la main de la foi c'est en fait une sorte d'espérance. Hein. La foi fiduciale, je saisis la justice du Christ et je me couvre de son manteau. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Christ. Et moi, je suis dégueulasse derrière. Attendez, si c'est comme ça, moi j'arrête, quoi. Parce que justement, le miracle, c'est que le baptême me divinise, si vous voulez. Quand il y a un baptême, vous avez la divinisation, vous participez, qui est reçu dans l'âme, effacement du péché originel, et donc rentrer dans le corps du Christ, et donc rentrer dans la paroisse, dans le diocèse, etc. Mais pour le protestant, imputation juridique des mérites du Christ. Mais c'est affreux, quoi. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Il a vraiment été... il est rentré dans ce souci personnel, il s'est dit, je ne peux pas sortir de mon péché, donc je décrète la foi fiduciale. Et du coup, c'était une obnubilation sur la question de son salut personnel, une diminution du caractère social de l'homme. Et ça, je trouve que c'est dramatique, parce que vous verrez quand vous vieillirez, on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin des autres complètement, quoi. À tout point de vue, même si vous êtes super trappe dans un truc, vous êtes super nul dans un autre, donc vous avez absolument besoin des autres. Et le catholicisme, c'est génial, c'est absolument génial, parce que vous avez partout, vous avez des gars qui ont travaillé ça, et Luther casse. Pour Luther, il n'y a pas de société ecclésiale. Enfin, il y a un groupe de gens qui, etc. Mais... Et donc, après, ça a des conséquences terribles dans la politique. Hein. Mais je pense que, justement, on est à une époque où il y a quand même une crise du protestantisme, j'allais dire orthodoxe, protestantisme originel. Donc, il y a des crises partout, si vous voulez, ce qui fait que je crois qu'actuellement, il y a un créneau, aussi bien vis-à-vis des matérialistes comme les Chinois, complètement matérialos, etc., qui n'ont rien, qui n'ont pas d'espérance. C'est quelqu'un qui revenait de Chine qui m'a écrit ça récemment. Enfin, que des gens qui sont des pays musulmans, où ils ont besoin de contact avec la charité. Puis la liberté, la vraie liberté, quoi. La vraie liberté qui vient du Christ et qui, on verra dans les prochains trucs, c'est comme ça qui nous a permis d'avoir ce qu'il y a de bon dans notre société. Et donc Luther nous a cassé ça. Donc j'ai un peu de mal à lui pardonner.
Pour rebondir sur la question, que penser du rapprochement justement des Anglicans de l'Église catholique?
Alors rapprochement, attendez, il n'y a pas exactement un rapprochement des Anglicans, il y a le fait que les Anglicans, enfin disons la communion anglicane, sous ces différentes espèces, est allé au bout de ce principe qui était tombé complètement dans la corruption, au point de vue, par exemple, l'ordination de femmes, enfin, ça fait rigoler tous les gens apostoliques, enfin, ça n'a aucun sens, si vous voulez, ça n'a absolument aucun sens. Mais maintenant, c'est des choses, c'est les homosexuels, alors, est-ce que les homosexuels peuvent être prêtres, peuvent être évêques, machin, bidule, enfin, on arrive à 150 km de la loi naturelle, et ils sont moins proches de la loi naturelle que beaucoup de musulmans, et que beaucoup de juifs, bien sûr, évidemment, des chrétiens, des orthodoxes. Donc il y a un tel effondrement qu'il y a beaucoup d'anglicans qui se disent « Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Je me barre. » Et ça fait 50-60 ans qu'ils veulent se barrer. Mais du côté catholique, on a dit « Oui, faut pas compromettre le dialogue d'ensemble. » Et donc, doucement, etc. Alors maintenant, grâce à Benoît XVI, ça commence à venir, quoi. Mais c'est un moment qui a commencé sous Pie XII. Sous Pie XII, chaque année, il y avait plus de 10 000 ou de 20 000 anglicans aux États-Unis et en USA qui se convertissaient. Donc, si vous voulez, la réforme arrive à son terme qui est le paradoxal, mais qui est le libéralisme et la destruction des origines mêmes. Ouais. Donc je pense que c'est bon de leur tendre la main, mais sans mélanger notre...
Mais comment croyance. Se passe justement, comment ça se passe du côté des dogmes auxquels ils ne croient pas ou...
Ah bah attendez, les protestants, les anglicans, qui actuellement, vous savez que le pape a fondé une structure qu'on appelle des administrations apostoliques, enfin des structures, justement, qui est un exercice varié du primat romain, voilà un truc génial de Benoît XVI. Il exerce le primat romain d'une façon différente vis-à-vis des anglicans qui viennent, paroisses entières et diocèses entières, on n'en parle pas, mais il y a des diocèses entiers aux États-Unis. Et alors, ils gardent leurs coutumes. Ils sont réordonnés, parce qu'ils n'étaient pas ordonnés validement. On vérifie qu'ils prononcent bien les paroles de la consécration comme il faut. Et ils gardent les choses, et ils gardent leur propre tradition. C'est magnifique, ça. Et donc, ils adhèrent à tous les dogmes. Hein. Ils ont dit, quand ils ont commencé les démarches, nous adhérons à tout ce qu'il y a dans le catéchisme de l'Église catholique.
Donc, ils croient à la Sainte Vierge.
Enfin, on ne croit pas à la Sainte Vierge. Enfin, au dogme relatif à la Sainte Vierge.
Oui.
Mais disons, attendez, ça, je crois qu'il faut faire attention pour ces choses-là. Je crois qu'il faut partir du noyau, si vous voulez. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Christ est Dieu? Est-ce que l'Église est mandatée par lui? Après, ça marche. Mais si vous commencez par vous braquer sur un truc, sur... je crois que c'est très difficile, mais il faut prendre... Et je crois que ces anglicans ont une grâce, souvent, la grâce vient par le drame, vous voyez. Ils ont eu un drame parce que c'est humiliant, quoi. Une église qui avait quand même un chant magnifique. Enfin, ouais, la liturgie de certaines églises anglicanes, c'est très respectable et tout. Et de voir cette honte, c'est une honte pour eux, dans laquelle ils sont en train de tomber. Donc c'est un drame pour eux. Ils disent, ça peut pas être vrai. Alors est-ce que c'est pas Rome qui est vrai? Et ils ont fait ce chemin-là. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est très... Alors, vis-à-vis des luthériens et des calvinistes, c'est très différent. Le chemin est beaucoup plus long parce que l'accord sur la justification est assez équivalent. Mais pour les orthodoxes, je crois qu'il faut beaucoup prier parce que moi, enfin, évidemment, chez les orientaux, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des manœuvres, des machins politiques de leur côté éventuellement. Mais ça fait rien. Ça marche quand même. Les choses peuvent quand même avancer. Je pense du côté des Russes, bien qu'il y ait beaucoup de manœuvres parce qu'actuellement, les Russes, ici à Paris, ils s'établissent très fort et tout parce que, bon, ils sont spectaculaires, ils ont une super liturgie, etc. Et donc, il faut une concurrence assez forte. Mais quand même, il se passe quelque chose. J'étais récemment au millénaire de Solène, vous voyez. C'est assez exceptionnel de faire un millénaire. Hein. Et donc, j'avais en face de moi, dans les stalles, qui étaient assez curieux, à ma gauche, j'avais un pasteur suédois, qui s'est mis à genoux quand même, pourtant tout, mais un goût. Hein. Pasteur suédois a évolué. Quoi. Mais en face, j'avais le vicaire de l'archevêque russe de Paris, enfin, pour la France, et puis le supérieur du séminaire, Siniakov, qui est un type très remarquable, et qui était donc dans les stalles. Alors avec eux, je crois que je suis le seul prêtre qui n'a pas qu'on célébrait dans la messe. Mais c'est vrai parce que je ne reconnais pas la visite de l'Eucharistie de Solène, mais ça se passe comme ça. Et après j'ai discuté un peu avec eux. Et on voit qu'ils sont quand même assez... ils sont aussi assez impérialistes, hein, c'est la tradition russe aussi. Mais ça ne fait rien, parce qu'en fait, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait vrai. On se retrouve sur la doctrine sociale, on s'est vraiment retrouvé, le patriarche actuel et Benoît XVI se sont vraiment retrouvés. Donc quelque chose est en train de se passer. Maintenant, où est-ce que ça, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas.